pas à trois.
Trois, oui,
d'accord.
Trois.
Un, deux, et ensuite trois.
Oui.
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 D'accord. T'es prêt?
D'accord.
À trois.
Trois.
Un. Deux. Trois!
Bienvenue dans Actionneur, le podcast qui va enfin parler de bagarre. Mais pas que, vous verrez. Dans ce numéro, nous allons revenir sur une très large partie de la filmographie de Gareth Evans et de Timo Chajanto, deux réalisateurs qui ont mis un coup de projecteur sur la production cinématographique indonésienne. Je m'appelle David, et bien évidemment, je ne suis pas seul. Je suis accompagné par le Mike Dog des podcasts, Thibaut. Salut Thibaut.
Salut, salut, ça va les gens?
Nous accueillons aussi, pour la première fois sur Actionneur, notre expert en silat, Fabrice. Tu vas bien Fabrice?
Ça va, salut tout le monde.
Salut.
Donc je vais faire une petite bio tout de suite de Gareth Evans parce que c'est intéressant par rapport à son parcours, comment il est arrivé en Indonésie et comment il a découvert le silat. Parce que toute cette partie-là va complètement créer le réalisateur qu'il va devenir. Et donc il est né au Pays de Galles, il vivait à Swansea. Il avait déjà fait un film en 2006 qui s'appelait Footsteps, mais sa carrière était complètement à l'arrêt et il travaillait dans un bureau. Et sa femme, qui était indonéso-japonaise, qui s'appelle Maya, devant sa détresse, lui a proposé qu'elle avait des contacts avec un producteur en Indonésie. Et donc, elle lui a proposé de se déplacer pour qu'il le rencontre. Et donc, ce producteur faisait un documentaire, une série de documentaires sur des éléments de la culture indonésienne. Et il a demandé donc à Gareth Evans de faire un documentaire sur le silat. Et donc il a fait ce documentaire, il pensait partir 6 mois et revenir après au Pays de Galles. Et pendant ce documentaire, où il interviewait les plus grands maîtres de silat, il a vu donc, il a découvert le jeune Iko qui avait 24 ans alors, et qui était livreur pour une compagnie de téléphone. Et il a donné un coup de coude à sa femme qui était productrice du podcast,
de ce podcast d'ailleurs.
Et donc en disant qu'il est... Il était fasciné, ça je l'ai vu dans le documentaire de The Red 2, quand on a découvert ce jeune type qui avait 24 ans et qui, avant de revêtir le costume pour faire du silat, paraissait complètement effacé et dégagé à partir du moment où il était sur l'air de combat et il dégageait quelque chose qui ne reflétait pas le côté timide qu'il était à l'extérieur. Et il a dit à sa femme que il adorerait faire un film avec lui. Et donc, il lui a proposé. Et évidemment, Iko Uwais, qui va devenir ensuite son acteur fétiche dans The Red, trouvait ça complètement fou et n'arrivait pas à y croire.
Et vous savez d'ailleurs ce qu'il voulait faire avant d'être acteur? Il voulait être footballeur.
Et il a fait footballeur pendant longtemps, ouais.
D'où les très bons coups de pied, hein. Voilà.
C'est ça.
Et donc, c'est comme ça qu'ils ont fait Meranto, tous les deux. Et avant de parler de Meranto, je vais peut-être parler un peu de silat. Et en tout cas, je vais poser la question à Fabrice, parce qu'il pratique du silat.
Effectivement.
Sur qu'est-ce que le silat et qu'est-ce que, par rapport au karaté, et ainsi de suite, quelle est la philosophie qui est sous-tendue? Parce que moi, j'ai fait des années de karaté. Et dans les sports de combat, il y a vraiment la partie, j'allais dire, sportive. Mais il y a aussi toute une partie philosophique qui est dedans. Et donc, voilà. Fabrice?
Je vais essayer de ne pas faire mon prof. Enfin, mon jeune prof et tout, mais il y a une sorte, la principale philosophie du Penchak, c'est pour pas faire shonen ou autre, c'est peut-être la lecture du mouvement, la lecture de l'instant. Comme dans chaque art martial, il y a bien sûr des, on appelle ça des lanka, donc des sortes de kata à répéter et autres, mais en fait qui ne servent à rien si tu n'as pas une sorte de lecture et d'adaptation de la situation. Parce que déjà Penchak Silat, c'est pas l'art martial, on va dire, c'est la catégorie qui regroupe plein d'autres techniques. Donc en fait, tu peux avoir deux personnes qui sont censées faire du Penchak, mais qui ne font pas se déplacer dans un combat ou utiliser les mêmes techniques. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est la lecture des mouvements de l'adversaire, c'est techniquement de la défense, il n'y a pas vraiment de mouvement d'attaque, enfin, il y a des percussions, il y a des projections et autres dans le Penchak, mais c'est de la défense essentiellement. C'est s'adapter à, on va dire, à ce que l'adversaire en face, à ce que l'agresseur, l'opposant, te balance, et retourner ça contre lui. Et contrairement à certains sports de combat où, où, par exemple, on va parler de l'art martial israélien, c'est
le Krav Maga.
Le Krav Maga, par exemple, le Krav Maga, c'est souvent justement désamorcer une situation dangereuse pour pouvoir s'échapper. En fait, le punchak, on se rend vite compte que c'est désamorcer la situation et devenir techniquement le destructeur, parce que c'est bloquer et péter des articulations, mettre au sol, frapper les parties sensibles pour vraiment désamorcer de la situation, mais on va dire avec une force parfois létale. Donc c'est cette philosophie, c'est une philosophie un peu étrange. C'est peut-être aussi parce que j'ai eu un prof pas bourrin, mais très offensif. C'est cette philosophie-là, c'est gommer, en fait, la couche de civilisation. Il nous a dit ça dès les premiers cours, gommer la couche de civilisation, le vernis de civilisation qu'on a, et aller directement à l'essentiel.
Okay.
Il nous a donné l'exemple ultime, c'est si un jour on agresse votre enfant, vous n'allez pas chercher à savoir est-ce que c'est plus esthétique de faire ci, ça, c'est par exemple directement attaquer les yeux. Attaquer les yeux de l'adversaire parce qu'on est plus faible ou autre. C'est ça, c'est un peu ça le punchak, c'est s'adapter vraiment à ce qui est en face sans réfléchir à faire quelque chose de beau ou autre. Effectivement, de base, on a une sorte de danse avec les différents mouvements qui, en fait, en les décomposant, sont des techniques de chop ou de déviation de coups. Mais en fait, derrière, c'est vraiment tout faire pour ne pas se faire blesser, pour protéger les autres. Et c'est ça, c'est l'adaptation, on va dire.
Et ce qui est intéressant, c'est que donc le silat, d'après ce que j'ai compris, il y a aussi plusieurs écoles et qu'il n'y a pas la même manière de faire le silat, que ce soit à Java ou à Jakarta. Et dans le making of de The Red, Iko Uwais expliquait qu'il y avait une espèce de fantasmagorie autour du silat et expliquait qu'il y avait une large partie, en tout cas telle qu'eux le pratiquaient, une large partie religieuse. Et qui confinait presque au mysticisme. Et les chaînes de télé locales avaient tendance un peu à exagérer l'aspect silat avec tout le mysticisme qu'il y avait derrière en disant qu'ils pouvaient sortir des boules de feu de leurs mains, qu'ils pouvaient devenir invisibles, que un peu comme on s'imagine un peu toute la catégorie ninja, tu vois.
Ouais.
En fait, il y a une catégorie un peu, c'est triste de dire ça, un peu bullshit du punchak. Si vous le voyez sur une vidéo ILMU, A-I-L-M-U, c'est souvent une vidéo bullshit. C'est le fait de t'as tellement maîtrisé le punchak que t'as une sorte de d'ultra instinct comme dans Dragon Ball ou de haki avec des gens qui peuvent pas t'approcher soi-disant parce que tu dégages une énergie meurtrière ou une puissance qui fait que les gens trop faibles ne peuvent pas t'approcher. J'ai envie de dire bullshit. J'aime beaucoup ce sport, mais j'aime beaucoup cet art, mais ça me paraît un peu trop gros.
Bon appétit, mes enfants.
T'as intérêt à bien manger, Yuda, parce que tu sais pas quand sera ton prochain repas.
Tu sais, il n'a pas tort. Prends des forces.
Si mon frère s'en est sorti, ce sera facile pour moi, crâneur. Il va pas y arriver.
Arrête de te moquer de ton petit frère. Il ne faut pas prendre l'épreuve du mérant de toi à la légère. Arrête, j'ai dit. Stop. Arrêtez de rire. Le méranto, c'est très sérieux.
Donc allez, on va parler de méranto. On va vite faire un vite survol, parce que Merento, donc, c'est le premier film qu'il va faire avec Iko Uwais, et c'est pas un film, pour ceux qui veulent voir The Red, je pense qu'ils vont être très déçus par la qualité générale du film. Mm-hmm. Le méchant est assez pété, voire super pété. C'est deux Occidentaux qui font du trafic de femmes. Il manque un peu d'énergie, et j'en reviendrai dessus, parce que c'est ce qui va conduire à The Red. Mais par contre, On trouve déjà en germe déjà l'acteur que Iko Uwais est. Yayan aussi, celui qui fera Mad Dog dans The Red. Mad Dog, c'est celui qui est chevelu avec qui a l'air d'un clochard dans The Red 2.
Petite bagarre dans une cellule, enfin dans une sorte de pièce fermée.
Ouais, donc on a ces deux. Bah, c'est les deux principaux chorégraphes de The Red. Mmh. Et on sent déjà toute la puissance, leur présence devant la caméra. Mais ce qui gêne, c'est que bah, l'histoire, elle est un peu lambda. Donc, le Merento, c'est un rite initiatique que font dans certaines régions d'Indonésie. Et donc, c'est un jeune homme qui donc joué par Iko Uwais qui va à Jakarta pour ouvrir une école de silat. Enfin, en tout cas, trouver une activité autour du silat. Et il va rencontrer une jeune femme qui est prostituée. Et cette rencontre va le confronter à la pègre locale. Et je sais que Fabrice, tu l'as vu. Et qu'est-ce que tu penses de ce film ?
Là, c'est le plus classique de l'école, enfin, on va dire de la filmo de Garrett. On se retrouve avec un schéma très Jackie Chanesque au final, avec un gentil qui va essayer d'aider son prochain. Des chorégraphies encore plus Jackie Chanesque que dans tout le reste, avec une grosse utilisation des éléments du décor, peu de force létale au final, peu de force létale. On va dire que c'est le film tout public. On retrouvera pas les percussions et le réalisme, on va dire un peu oppressant qu'on peut avoir dans les combats de The Red où on a mal à chaque impact, mais on a plus de ce côté danse et aventure. Ça aurait pu être un film sorti dans les années 80-90. On y aurait vu que du feu, une histoire basique, comme tu l'as dit, basique, simple.
Ouais, d'ailleurs, l'aspect vieillot de Merento s'explique un peu parce qu'il tire son inspiration des vieilles séries télé hongkongaises de Kung Fu. Ouais. Et je pense que il a vraiment creusé dans ce sillon-là. Et il y a une critique qui a été faite à Merento, et je pense que c'est en ça où les gens qui veulent vraiment trouver une espèce de quelque chose de viscéral qu'on trouvera après dans la suite de sa filmographie ne trouveront pas là. Et d'ailleurs, donc le reproche qu'on lui a fait, c'est que le combat était trop mou, trop lent, et que Iko Uwais était limite quelqu'un qui, face à un autre combattant, se ferait défoncer trop vite.
Ça a bien changé depuis.
Ouais,
c'est ça. Il y a vraiment une critique comme ça, de mollesse. Et c'est à partir de cette critique-là qu'il a créé The Red. Et donc, on va parler de The Red et je vais balancer la petite bande-annonce qui va bien.
Bonjour à tous. Comme vous avez pu le remarquer, nous avons des visiteurs imprévus qui rôdent dans nos couloirs ce matin. Alors, au travail, mes amis.
Et faites-leur passer un moment agréable.
Je me souviens très bien de cette bande-annonce.
Et donc, voilà. Ça va faire passer un moment agréable.
Très agréable.
Ouais, le moment a été sublime, divin.
Qui veut résumer ?
Allez, je vais m'en charger. Bah, The Red, c'est la petite claque qu'on n'attendait pas. Je me souviens la première fois que j'ai été confronté au film, c'est une affiche dans le métro avec plein de verbatim de dingue. Je me suis dit, allez. En plus, c'était pendant une grosse promo au ciné. Donc, j'y suis allé sans trop savoir ce que c'était, et je me suis pris une de ces claques. Bah, c'est l'histoire de forces spéciales qui doivent investir un immeuble pour faire sortir un boss, et ils se retrouvent face à une opposition qui n'attendait pas. Ça se passe au début, ça se passait super bien, mais au final ils se font vite repérer et ils vont se retrouver à devoir gérer tout un immeuble qui veut leur peau. Avec Iko Uwais qui joue le rôle du héros et qui va gravir les étages comme dans un jeu vidéo, péter des bouches, péter des jambes et essayer de s'en sortir sans y passer. Donc film ultra efficace. Je suis sur le résumé ou je continue sur mon ressenti ?
Bah vas-y, tu peux y aller sur ton ressenti.
Donc, ouais, film ultra efficace, pitch simple, cheminement très vidéoludique avec à chaque étage, une opposition plus ou moins forte, utilisation d'armes, pièces confinées et une grosse claque. En fait, ça ressemble à une bande démo ultra maîtrisée. Mais on en parlera, je suppose, après. Ces histoires de budget, de bande démo enchaînement sur The Raid 2.
Thibaut, vas-y, ton avis.
Bah, c'est un film que, comme Fabrice, j'ai pris en pleine tronche à l'époque. J'avais pas mal suivi le early buzz de ce film-là, qui était passé par pas mal de festivals, et j'en avais beaucoup entendu parler. À l'époque, j'avais mon petit blog, et je suivais un petit peu l'actu de ce projet-là, parce que moi, personnellement, je suis assez hermétique. En tout cas, à l'époque, je l'étais vraiment. J'ai toujours un peu de mal avec le cinéma asiatique, parce que j'ai été biberonné à Hollywood, et que c'est pas bien, et ça ou Matrix le crâne, et du coup j'ai toujours eu des difficultés à lire l'action ou même à comprendre un petit peu les thèmes qui sont asiatiques dans leur cinéma, et donc là j'avais vu voilà cinéma d'action indonésien par un britannique, gros buzz, bande annonce qui claque et tout, et puis bah c'est vrai que ce qu'on pouvait voir dans la bande annonce donnait très envie, même si aujourd'hui pour avoir revu le film et notamment la bande-annonce là juste avant le podcast, je trouve que le film a pas mal vieilli en fait par rapport à ce qui s'est déjà fait dans The Raid 2 ou plus récemment sur The Night Comes For Us. On sent qu'il y a des techniques qui ont été perfectionnées. Après, c'est un film qui a été fait avec assez peu de budget aussi. Et notamment, il y a un truc qui est assez criant dans ce film, c'est l'utilisation des armes à feu qui sont des répliques d'airsoft auxquelles on a du coup demandé aux acteurs de mimer un recul. Et on a eu ensuite en post-production des effets de douille et de flammes qui sortaient du canon. Et ça, c'est un truc qui rend particulièrement cheap dans ce film-là. Après, bon, bah, les armes à feu ne durent pas très longtemps et Gareth Evans a voulu concevoir plus une sorte de survival avec une petite dimension presque horrifique plutôt qu'un juste un film d'action. Donc moi c'est ce que j'ai vu en tout cas sur le moment, parce que je m'attendais vraiment à vivre un truc où ça allait juste être brainless mais kiffant, et je trouve qu'il y a pourtant dans ce film vraiment il y a quelque chose qui me marque et qui me Fabrice parlait des différents niveaux de jeux vidéo, et c'est un petit peu ça, mais à chaque nouveau palier passé t'as dans ton ventre quelque chose qui te met mal à l'aise et tu sens à quel point les combats sont difficiles. Et c'est un film d'action qui, je pense, a réussi à amener ça tout en travaillant beaucoup de choses intéressantes du côté du character development et de ces choses-là. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un film qui tient sur un timbre poste. Pour moi, c'est presque tout l'inverse, en fait. On pourrait écrire des pages sur ce film tant les séquences sont maîtrisées et rejoignent en fait des arcs narratifs d'une manière assez puissante par moment. Donc peut-être pas forcément dans le premier, c'est peut-être un peu plus dur de le voir, mais dans le second ensuite, je trouve que c'est assez criant. Donc c'est vraiment un film que je recommande aux gens s'ils l'ont pas encore vu, et je pense que c'est un film qui est déjà entre guillemets historique pour le genre de l'actionneur en général, parce que je pense que ces dernières années peut-être il y a eu John Wick ou Mad Max Fury Road dans un délire un peu plus véhiculesque, mais il y a pas beaucoup de films d'action qui sont arrivés et qui ont inventé une nouvelle manière de filmer, quoi.
Et encore, cette manière de filmer quelque part elle est pas du tout nouvelle.
Oui, elle est pas du tout nouvelle parce que comment dire, à l'échelle globale, quoi, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que en tout cas moi personnellement, quand ça m'est arrivé dans la gueule, je savais pas que c'était possible de faire ce genre de choses, parce que Fabrice parlait des films de Jackie Chan, et c'est vrai que Evans est très influencé par lui et d'autres martial artistes, et je trouve les films de Jackie Chan justement cette espèce de comique et de comment dire, de grain, je sais pas vraiment quelle expression peut mettre le doigt dessus, mais j'y crois moins, en fait.
C'est un peu burlesque.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, ce qui me fascine toujours dans The Raid, et là, ensuite, dans la suite, et dans un film comme The Night Comes For Us, c'est à quel point les coups sont réellement portés, et à quel point, en fait, la proximité entre les personnages, les cadrages, etc., me fait halluciner. C'est-à-dire que c'est quasiment un film que je regarde avec deux cerveaux, c'est-à-dire qu'il y en a un qui suit le film et l'autre qui se demande en permanence mais comment c'est possible de filmer ce qu'on vient de voir, parce que je comprends juste pas comment c'est faisable, tu vois, il y a vraiment une impossibilité technique dans ma tête, et j'adore voir ces films par rapport à ça. Et c'est là où je voulais dire que c'était nouveau, parce que bah pour moi en tout cas à l'époque personne n'avait pu faire aussi bien que ça, quoi. Mais peut-être que je me trompe.
Mais moi par exemple de mon côté, j'ai beaucoup aimé les films d'arts martiaux quand j'étais tout petit, et plus j'ai grandi et plus je m'en suis détaché, parce que j'aimais pas ces effets de danse de l'air, tigre et dragon et autres. C'était tout le monde adorait, mais moi, ça me passait totalement au-dessus. J'aimais pas ces chorégraphies douces, en fait. C'était censé être de la bagarre, de l'action, des trucs qui claquent, mais en fait, c'était très, très chorégraphié, très doux. C'était de la danse, en fait. Ces ficelles, ces projections un peu étranges. Je ne suis pas un pro de la bagarre, un pro de l'action, ou un martial artist confirmé, mais pour avoir pratiqué quelques arts martiaux, pour avoir fait quelques combats, je ne retrouvais rarement ça dans le cinéma asiatique. On va dire que le dernier film avant The Raid et Meranto qui m'avait, on va dire, un peu titillé, c'était Ong Bak. Et même là, en fait, en le revoyant, je me rends compte qu'il était un peu formaté, un peu pas cheap, mais avec tous ces effets de pseudo gros saut, coup de genou. Je me rends compte que The Reds a vraiment renversé le jeu. C'est aussi pour ça qu'il y a eu tout ce buzz du waouh, on n'avait jamais vu ça. Et effectivement, pour moi. Enfin, avant The Raid, j'avais jamais vu ça dans un film.
Mais c'est vrai qu'apparaît l'ère John Woo et l'ère Jackie Chan. Il y a les films d'arts martiaux se sont Dragon Ballisés.
Ouais, en quelque sorte.
C'est-à-dire que tout est devenu hyper extrême, les sauts et tout ça. Alors, ça a un charme. Moi, j'adore les films de Tsui Hark. Mais c'est vrai que, en voyant donc les making-of et les interviews, Iko Uwais et Gareth Evans voulaient que ce soit réel. Le fait de pratiquer le silat soit réel. Et peut-être que c'est lié au fait qu'ils reprochaient que les chaînes de télé en Indonésie disent qu'ils pouvaient lancer du feu et tout ça, et que d'une certaine manière, eux ne se retrouvaient pas dans cet aspect du silat tel qu'ils le vivaient en tant que praticien. Mais c'est effectivement là le cœur de la manière de filmer le silat. Mais en tout cas de le montrer, parce que de le filmer, Gareth Evans reprend ce qui se faisait déjà auparavant dans les films hongkongais, et pour lui, c'est grande référence, et malheureusement je suis en train de griller l'une de mes questions pour le quiz, mais je vais le faire quand même, c'est que donc il est influencé par John Woo, par Jackie Chan et tout ça, par opposition, c'est-à-dire qu'il veut que ces acteurs, le travail qu'ils ont fait dans leur chorégraphie, parce qu'il faut savoir que donc une chorégraphie pour un film, alors des scènes, j'allais dire moyennes, il faut une semaine pour la chorégraphier. Après, ils vont la storyboarder. Il fait un storyboard vidéo, c'est-à-dire que il va filmer les acteurs dans la salle avec donc tous les tatamis, les protections et tout ça, pour lui apprendre à savoir comment poser ses caméras. Il crée déjà ses plans pour qu'ensuite, au moment où il va tourner le film, il sache déjà où placer sa caméra, quel faux mur sera placé pour recevoir les coups, pour éviter que quelqu'un se blesse. Donc tout est préparé en amont. Et par exemple, dans la scène de la cuisine de The Raid 2, ils ont mis un mois et demi à préparer la chorégraphie, un mois à préparer le storyboard vidéo. Et donc pour lui, la manière de filmer le combat, c'est de montrer ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'il veut accompagner le mouvement, il veut pas, comme chez Greengrass, comme poussé à l'absurde chez Michael Bay, chez Kikam, montage stromboscopique, et après rajouter juste du bruit pour créer cette espèce de gloobie-boulga visuel qui donne l'impression que c'est un combat. Mmh. Lui, ce qu'il veut, c'est mettre en valeur les acteurs qui sont face à la caméra. Et donc, il veut comme ça toujours montrer le coup qu'il porte, le mouvement. Et effectivement, l'une des scènes, par exemple, moi qui m'a le plus marqué dans The Raid 1, c'est quand il fait tomber le gars contre la chambranle de la porte qui reste par terre.
Ouais.
Où tu suis le corps.
Bah après, du coup, c'est vrai qu'il a repris pas mal de trucs, mais tu parlais des différentes choses qui font, qui sont les composantes de son style, à Gareth Evans en tout cas sur The Raid. Mais par exemple, il utilise beaucoup la shaky cam. C'est très shaky en fait, The Raid, mais le montage fait qu'en fait ça reste toujours lisible, et que quand ça bouge, c'est pour une bonne raison, comme tu disais tout à l'heure, David, parce que généralement on accompagne le corps. Il y a aussi dans The Raid 2 un moment, le caméraman passe par la fenêtre en même temps qu'un personnage. C'est un des meilleurs exemples pour le coup d'une caméra qui est pas du tout stable, mais qui pourtant maintient une action lisible. Et moi j'aime justement pas cette confusion de on devrait peut-être pas le citer dans ce podcast, mais je sais que par exemple c'est un gros truc qu'on entend dans toutes les vidéos de ce bon Durandal, où il confond systématiquement ce côté shaky cam et on n'arrive pas à lire. Alors que pour moi, j'arrive bien plus à lire une caméra qui bouge, un caméraman qui tombe en suivant un corps, que une over-edit de Liam Neeson qui passe au-dessus d'une d'un grillage avec 14 plans, enfin 14 coupes, comme on l'a dans Taken 3 par exemple. Et c'est vrai que c'est pour moi, c'est vraiment deux écoles très différentes qui pourtant utilisent en partie les mêmes techniques.
Ouais, enfin disons quand je parlais de shaky cam, c'est surtout voilà le côté très sautement permanent. Pour faire croire qu'il y a un mouvement.
Que ça va vite, ouais, ouais.
Ouais, alors que en vérité,
il y en a pas.
Si lui, il suit le corps, c'est-à-dire qu'on a peu de plans de caméra où t'as, tu sais, les soubresauts.
Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire.
Oui, la caméra chez Gareth Evans suit, mais elle suit toujours le mouvement, le corps. Elle est justifiée par chaque prise de cilate, chaque, comme tu disais, les projections et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'elle. Ça se justifie visuellement. Et c'est en ça où je pense que l'aspect réel, l'aspect viscéral, le fait de ressentir les coups, de... Alors après, Iko Uwais disait que les coups au visage, il ne se les donne pas, mais les coups dans le corps, oui, il se les donne. Hein.
Ouais, ouais.
Bah, c'est d'ailleurs un point des entraînements de Penchak qui... Enfin, je ne sais pas si des personnes veulent faire des cours d'initiation ou autre, ou se lancer. Mais les entraînements de Penchak sont assez durs en général. En fait, pour pouvoir reproduire un coup, il faut savoir ce que ça fait. Et du coup, notre instructeur, nous fait faire des répétitions. Et à partir d'un moment, on s'arrête. Il va nous montrer un mouvement et il va prendre quelqu'un dans la salle et faire la démonstration sur lui.
Il va le déboîter.
C'est un très bon résumé. Et j'ai un genou qui s'est toujours pas totalement remis d'un entraînement qui m'a marqué toute ma vie, je pense. Et c'est ça en fait. C'est le Penchak, c'est cet impact et cette histoire de caméra en mouvement. En fait, c'est une caméra Penchak. Quand on check les déplacements et les coups au Penchak, il y a beaucoup de mouvements de mains et autres, mais en fait, on se rend compte que les pratiquants économisent, ne bougent pas dans tous les sens. En fait, c'est au moment clé, il va y avoir peut-être de l'air brassé par des bras qui passent et tout, mais ce ne sera pas on sera pas dans un film d'arts martiaux où la personne va tourner autour de l'adversaire. En levant les bras, en faisant des poses du tigre et autres. Donc, la caméra dans le cinéma de Gareth Evans a une philosophie Penchak.
Alors tiens, Fabrice, vu que t'as le micro, quelle est ta scène qui t'a le plus marqué dans The Raid 1? Quelle est la scène que tu retiens?
Bah, c'est à peu près au même endroit que toi. C'est la scène du couloir où il déboîte toute une horde d'assaillants, mais c'est la scène où il en chope un et il lui éclate la tête sur plusieurs pans du mur en descendant.
Ah ouais, j'adore ça.
Et la caméra qui suit. Et c'est là que je me suis dit, ouais, on est dans un bel endroit. On aime y être. Ouais. Donc c'est cette scène, bien sûr tout le reste, le combat final et autres, mais je crois que c'est cette scène qui m'a vraiment fait me dire, ce mec filme différemment.
Et toi, Thibaut?
Moi, c'est la scène du team-up. Je vais pas trop en dire pour ceux qui auraient pas encore vu le film, mais il y a un moment dans le film où on part sur une grosse bagarre à trois et on passe à une bagarre en deux contre un parce que le mec est beaucoup trop fort. Et là, je trouve qu'il y a un côté, pour le coup, ils envoient pas des boules de feu, ils sont pas en mode Dragon Ball non plus, mais c'est là aussi que j'ai trouvé une forme, malgré tout, de... Je pense qu'il y a ce côté un petit peu fascination occidentale pour ces arts martiaux-là quand nous on les regarde, parce que on aura beau les respecter, s'y intéresser, etc., il y a des limites physiques et de compréhension, tu vois, et quand soudainement la caméra bouge un peu et te fait comprendre que ok, le combat va pas se passer comme prévu et que ça s'enchaîne avec plusieurs personnages, mais contrairement au gros mob, enfin à la centaine de mobs que t'as vu ces dernières minutes, là c'est un mec qui s'est encaissé, ça devient proprement épique et presque mystique quoi par moment. Donc moi j'aime beaucoup cette scène là pour ça.
Allez, on va passer à The Red 2.
J'en ai que pour 2-3 mois. Tu devras pas chercher à savoir où je suis. Si on veut vraiment nettoyer cette ville en profondeur, faut qu'on frappe au sommet, qu'on fasse tomber ceux qui dirigent. J'ai besoin de toi dans mon équipe, que tu t'infiltres. Et après ça ?
Et après ça ?
La bagarre.
Ça va chier. Thibaut, tu veux résumer le film ?
Alors, il faut savoir qu'en fait, The Red 2, Berendal, c'est ça qui veut dire fif ou fugs, je sais plus, en indonésien. Était en fait le premier The Red envisagé par Gareth Evans, mais comme beaucoup d'autres gens, il a dû un petit peu revoir ses ambitions à la baisse, en commençant par The Red 1, qui a été un tel phénomène qu'il a pu enchaîner avec The Red 2, qui lui est plus, si le premier est un survival et avec un peu une dimension horrifique, là c'est toujours des arts martiaux mais plus dans une sorte de thriller où on a notre personnage principal toujours joué par Iko Uwais qui est désormais un policier infiltré dans toute cette mafia locale qu'il a essayé de faire tomber dans le premier film et donc il va devoir un petit peu suivre comme ça les mésaventures de l'un de ces gangs pour mieux faire tomber les différents parrains de la mafia locale. Donc voilà, j'en dis pas trop. C'est un film qui a un peu plus de longueur, de densité aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui désormais le voient un petit peu comme un truc honteusement long par rapport à ce qu'il a à dire. Moi, je trouve qu'il résume hyper bien ce que j'aime chez Gareth Evans. Avant de vous laisser la parole, messieurs, c'est qu'il y a vraiment ce mélange des cultures, en fait, avec des choses que moi j'attribuerais typiquement à du cinéma occidental, britannique ou hollywoodien, qui se mélangent avec des espèces de pauses et des respirations, et des cadrages qui, eux, relèvent plutôt typiquement du cinéma asiatique. Et ça crée ce mélange qui fait qu'à mon avis, la saga The Red est plutôt cool si vous voulez vous lancer en fait dans, enfin après vous me confirmerez ou vous infirmerez messieurs, mais si vous voulez lancer dans ce genre d'action là, et en tout cas dans ce pays de l'action, je trouve que c'est une bonne transition parce qu'il y a un mélange des influences qui est assez plaisant, je trouve, à l'œil, et qui laisse vraiment apercevoir un petit peu quelque part le génie de Gareth Evans, ou ce que les gens n'aiment pas chez lui selon où vous vous placez, mais moi je trouve que c'est vraiment super agréable. J'ai vu ce film au ciné, j'ai pris une méga claque, j'étais complètement absorbé. Je crois que j'ai pu le voir à Paris en plus à l'époque dans un super salle, donc c'était une VO, je m'étais pas tapé la VF comme le premier film que j'avais vu à Reims à l'époque, et du coup là j'ai été soulevé par ce film parce que il y a vraiment une espèce de poids, et même là spontanément je pense à toute l'utilisation de la musique classique dans le film qui est hyper forte, et les couleurs et les différents fights où tu te dis ça peut pas être plus intense que le dernier que je viens de voir, et à chaque fois il arrive à faire mieux. Et même le teaser était assez incroyable où il y avait juste le personnage principal en prison qui s'entraînait à taper sur son mur avec une espèce de silhouette dessinée à la craie. Bref, un film que moi j'aime beaucoup, et qui a des personnages c'est un peu The Red en mieux, quoi. C'est un peu le problème de ces films, tu vois, qui au final, là aussi c'est assez typique du jeu vidéo, c'est on a une idée mais on n'a pas assez de moyens, ou on sait pas trop comment l'adapter, et puis après t'arrives sur un second épisode qui lui est un petit peu la version ultime de tout ça, et que moi j'aime beaucoup en tout cas.
The Red. C'était le The Red de la maturité, comme dirait l'autre.
C'est ça.
tu disais que tu l'avais vu dans une bonne salle parisienne, c'était la même pour moi, et toute la salle a vibré. Lors du, on va dire, de la dernière passe d'armes, où en fait on sait qu'on est censé rester silencieux dans un cinéma et autres, mais en fait à la fin du combat on a vraiment entendu des respirations des mecs qui avaient vu, enfin c'était également mon cas, on a tous retenu notre respiration dans la salle. C'était une sorte de délivrance à la fin du combat. C'était une maîtrise, mais on peut parler de virtuosité à ce niveau-là.
Surtout sur le combat final, quoi, qui a, ouais, qui a pris, il me semble, ne serait-ce que 8 jours de tournage à lui tout seul, qui se déroule dans plusieurs parties d'un même décor, enfin, qui est toujours aussi impressionnant à regarder, même sans regarder le film complet. Moi, ça m'arrive de me mater ce petit duel comme ça, là, pour me chauffer, hein, je l'avoue.
Avant d'aller à Châtelet.
Ah, c'est ça.
Non, mais en plus, ce combat dévoile un aspect du Pench Axilat qui n'avait pas été trop abordé dans le premier, sans vouloir spoiler. Dans le premier, il y avait beaucoup de corps à corps et quelques armes à feu. Et dans celui-là, on voit enfin l'utilisation d'armes blanches. Est-ce qu'on peut en parler un peu ou c'est vraiment trop spoilant pour vous? Non,
je pense qu'on peut en parler. Et effectivement, tu fais bien de le souligner. Et je trouve même, bon, on parlera de The Night Come For Us tout à l'heure, mais je trouve même que The Night Come For Us a été limite même plus loin par rapport à ça. Parce que moi, justement, j'aime bien dans The Raid l'introduction d'armes blanches et d'objets un petit peu improbables, notamment des marteaux et une batte de baseball, pour ne pas les citer.
Ça, c'était très jeu vidéo, encore une fois.
Ouais, il y a un côté très jeu vidéo ou un peu justement perso de manga, tu vois, qui va avoir deux trucs très identifiables dans les mains, mais c'est vrai que moi j'avais bien aimé, mais que j'avais trouvé ça un petit peu gimmick en fait dans The Raid, alors que dans The Night Comes For Us, qu'il y a peut-être moins de prétention, tu vois, en termes de mise en scène et tout, j'ai trouvé beaucoup plus fun, vraiment fun, quoi. C'est marrant de voir un type fracasser des têtes avec des boules de baseball ou de billard, etc. Mais je sais pas, moi ça m'avait moins marqué que ça me l'a marqué dans The Night Comes For Us. Je sais pas pourquoi, je ne saurais pas vraiment l'expliquer. Ah ouais. Mais c'est vrai que...
Moi j'ai une réponse à ça aussi.
Moi j'étais parti juste sur les carambites, en fait, les couteaux incurvés du Penchak.
Ouais.
J'étais juste parti là-dessus. Bah, en fait, c'était... Pour une fois, ils avaient fait salade tomate oignon au niveau du Penchak, ils avaient tout montré. Mais en fait, tu peux fracasser, tu peux faire des soumissions et tu peux utiliser des armes blanches pour sectionner des ligaments.
Voilà.
La classe.
Voilà. Un art martial complet.
C'était quoi ta réponse, David? Ouais.
De quoi? Je parlerai ça dans The Night Comes For Us.
Ok,
de toute façon.
Ok.
Parce que c'est dans le rapport à la violence, comment Timo Chajanto et Gareth Evans n'ont pas le même rapport. Et je pense que l'impact des armes blanches, notamment du cutter dans The Night Comes For Us,
incroyable,
est beaucoup plus marquante, saisissante, tranchante que le jeu avec les armes, même si c'est intéressant, notamment pour qualifier Julie Estelle dans la fille donc avec ses marteaux, où la scène du métro est juste super forte. Où le gars avec sa batte qui la traîne par terre, t'as l'impression que c'est Pyramid Head dans Silent Hill. Donc c'est super fort et c'est marrant pour qualifier tout de suite un personnage et pour le trouver tout de suite charismatique, ou en tout cas le caractériser dès le début. Et notamment donc pour les marteaux, c'est parce qu'il voulait, il s'est intéressé à une manière du Silat, qui est de frapper avec la main et de griffer avec les doigts. Et donc, ce côté frappe, j'allais dire, comme un marteau, et après, le truc pour enlever les clous, c'était le moyen, comme ça, de qualifier une technique de Silat avec un objet. Et Julie Estelle, je vais parler d'elle, parce que je trouve que sa scène dans le métro est juste fascinante, mais c'est pas ma scène préférée, j'en parlerai après. Mais il faut savoir qu'elle ne connaissait pas le Silat avant de commencer. Mmh. Et Julie Estelle, dans le paysage cinématographique indonésien, c'était une superstar. Et là, elle était intéressée par, donc, elle avait été intéressée par Merento et par The Raid. Et donc, elle lui a fait passer un casting. Et vu qu'elle savait bien se débrouiller, et ben elle a été prise. Et effectivement, elle est super charismatique. Et elle sera d'autant plus dans The Night Comes For Us après. Et je vais tout de suite passer à ma scène que j'ai aimée, parce que moi aussi je l'ai vue dans un cinéma, mais je ne l'ai pas vue à Paris. On était 3 dans la salle, je l'ai vue en VF, c'était la misère.
Aïe, aïe, aïe. Cette VF naroutesque, mais vraiment, ça lui fait perdre des points, c'est dingue, parce que je l'ai vue 3 fois au cinéma.
Ah, c'est incroyable.
2 fois en VO, 1 fois en VF, parce que je devais le voir à Angers avec des potes, je voulais absolument le voir avec eux au ciné. Il n'y avait que la VF, mais j'ai pété un câble. C'était.
Bah, ça les rend super neuneux, en fait, les personnages, quoi.
Mais par contre, t'es frappé par la première scène, qui est cette espèce de champ qui couvre la totalité. Moi, je me suis perdu dans cette image. C'est-à-dire qu'on était dans la salle de cinéma. C'est difficile après, dans un petit écran, à moins d'avoir un projecteur et tout ça. mais tu te perds dans la verdure et la scène se passe dans le petit quart à droite de l'écran.
Ouais, c'est ouf. J'ai adoré ça.
Cette manière de rentrer dans l'action, cette manière de montrer, d'être comme ça accablé par la végétation et de et toi tout ce que tu regardes c'est le petit timbre en bas à gauche de l'écran. Moi j'ai été bluffé, moi il m'a saisi dès cette scène.
Oh ouais, pareil.
Et c'est pas une scène de combat et tout, mais c'est fascinant. Alors en littérature on aime digresser sur l'incipit, mais cet incipit là cinématographique, mais quelle claque.
Ouais ouais, c'est la folie, c'était le fuego.
C'est ça.
Et toi, t'as donné ta scène préférée, mon petit Thibaut ?
Non, mais j'en ai plusieurs. J'aime beaucoup la scène du club, parce que j'ai un... Faudrait qu'on fasse un épisode spécial, parce que mine de rien, il y aurait beaucoup de films qui rentrent dedans.
Là, j'en sais
rien. Carrément.
Les scènes de bataille dans des clubs ou des boîtes de nuit, je trouve c'est de bataille, je dis d'ailleurs. C'est peut-être plutôt de combat, mais je trouve ça assez incroyable. Je sais pas pourquoi ça a toujours matrixé mon imaginaire.
Et toi, tu veux parler de Patrick Swayze, toi, bientôt?
Bah, pourquoi pas. Mais non, mais je pourrais te citer John Wick, Collateral, récemment Mission Impossible, Fallout, tout ça. Et bref.
C'est peut-être parce que t'es un clubbeur.
Mais pourtant, je suis pas un clubbeur. Mais je sais pas, j'ai toujours trouvé qu'en fait c'est un endroit de la nuit et là où en fait tout peut arriver. Tu sais, t'as aussi une notion de la musique qui va être en rythme avec le combat. Et ça, j'adore. Je suis un peu un neuneu quand on en arrive à ce genre de truc. Et du coup, j'ai toujours adoré cette espèce de circulaire quand t'aimes la caméra où d'un coup le club se vide et tu te retournes et t'as tous les mecs qui arrivent et il y a juste un seul mec face à eux. Ça m'a toujours beaucoup plu. Et puis comment ne pas citer le combat de fin, le combat dans la voiture, le combat de prison. En fait, chaque scène de baston est à peu près culte. Je trouve qu'il y en a aucune, contrairement à The Raid où de temps en temps tu sens qu'ils expérimentaient encore. Là, je trouve qu'il y en a aucune qui est foirée ou qui manque de ci ou de ça. C'est vraiment une maestria totale, quoi. À mon sens, en tout cas.
Et toi, Fabrice ?
Est-ce que je peux tricher et en mettre deux aussi ? C'est possible.
Non, mais vas-y, de toute façon.
En fait,
Thibaut, il en a mis 12.
Ouais. C'est clair, j'ai à peu près de toutes les mettre.
Moi, c'est la scène de combat finale. Enfin, ce tunnel d'action, de patates, de lacération. C'était on va dire ce tsunami esthétique et violent, et je mettrais juste derrière l'affrontement un peu avant. D'ailleurs, on est encore sur cette échelle de puissance. Là, on n'a pas les tours, on n'a pas la tour à gravir, mais on avait quand même cet endroit où il arrive. Il déboîte toute une palanquée de bots, on va dire, et il arrive sur les vrais joueurs avec Julie Estelle et son frangin. Et en fait, c'est cette scène juste derrière, le moment où il les affronte à deux contre un, et le moment où il termine avec la batte de baseball et il y a la caméra qui tourne tout autour, enfin qui accompagne la batte et qui fait un tour et qui montre la dévastation. Je sais pas si vous la voyez.
Je la vois.
Ouais ouais.
Ouais, c'est encore une fois on a cette notion de d'oppression en fait. Tu es dans le combat et tu as l'impression de te prendre les coups, tu ne peux prévoir aucune des réactions. Avec le mec à la batte de baseball qui pète un câble et qui se retrouve quasiment berserk. C'est, ouais, on va dire que ce sont mes deux scènes. L'affrontement à deux contre un et l'affrontement final.
Ce qui est intéressant dans la manière dont il met en scène l'action, c'est que l'action, c'est pas comme, j'allais dire, un porno. L'exemple,
je quitte ce podcast.
C'est parce que l'un des producteurs de Naughty Dog expliquait que pour faire un jeu vidéo, il fallait y penser comme un porno, c'est-à-dire... En gros, les actions, c'est le plus important. Ce qui est entre, c'est complètement annexe. Et donc, l'action, c'est l'action pour l'action. Dans The Raid, ce qui est intéressant, c'est que l'action est porteuse de narration. Dans la scène de combat dans la prison, elle montre le rapport entre deux personnages, donc entre Ico et le fils du malfrat qui justifie le fait que lui soit en prison undercover. Et toute la relation née du fait que tout d'un coup il se met à sauver ce gars alors qu'au départ ils étaient plus ennemis. Et donc juste à la fin de cette scène t'as une ellipse de 2 ans, là où t'aurais pu d'une certaine manière l'expliquer par des dialogues, par quelque chose. Non, toute la narration s'est faite dans la scène de combat qui, de plus, est dantesque, quoi. Cette scène dans la boue est juste fantastique.
Elle est ouf.
Mais elle portait en elle la narration.
Mmh. Ouais, mais c'est ça que je trouve assez agréable, en fait, chez Evan, c'est qu'il manque, du coup, en comparaison, on a dit du bien de The Night Come For Us, mais par exemple, c'est ce que j'ai pas dans le film, en fait. Le développement des personnages, je suis pas forcément celui de l'action aussi bien que dans les deux The Raid, à mon sens.
Bah, The Night Come For Us, il est parfaitement taillé pour des fanfictions, en fait. Les mecs ont balancé plein d'idées, et bah, en fait, t'as rien pour les lier. Donc, on peut déjà voir sur Twitter ou dans de sombres recoins d'Internet des gens qui brodent sur des personnages ou autres parce que bah, on nous a ouvert l'appétit, mais derrière, on n'a pas ce qu'il faut.
Oui, mais derrière, il devrait y avoir ce qu'il faut. Mais on en parlera après dans le passage sur The Night Comes For Us parce que ça doit être une trilogie.
Ouais.
Et oui.
Allez, je vais faire passer le petit quiz.
Allô ?
Oiseaux d'un même nid, gorées d'une même portée. Le chat et la souris, comme moi, vont jouer.
Très joli. En vert en plus.
Ok, alors le quiz, ça va être basé à partir d'extraits de films ou de bandes-annonces. Et après, si vous ne trouvez pas, je donnerai des indices pour vous aiguiller.
Yes.
Ok.
Allez.
Donc mon champion Thibaut contre le challenger Fabrice.
Pardon, c'était question pour un champion.
Ok, allez, première. Et en plus, j'ai entendu que tu avais repompé mon idée de quiz. Hein.
Oui, paraît-il.
Dans l'Outrider.
Oui, paraît-il.
Allez, premier extrait.
Tourne à tes voix.
Alors pas de personne à un indice là.
J'aurais lancé un petit hard boil, mais non, je sais pas.
Non.
Ah, je sais pas du tout.
C'est japonais. Je l'ai mis à cause de la musique de Joe Hisaishi. C'est de Takeshi Kitano, c'est Sonatine.
Ah,
ah putain. Alors,
Indeed.
Nul. 0-0.
Ouais.
Alors, le quiz a pour but aussi de montrer que c'est.
Que t'as de la culture et pas nous. Ouais, on a compris.
C'est salaud.
Non, c'est pas ça. Mais enfin, même si c'est un peu ça, tu vois, mais bon.
Ouais, faut pas le
non,
dire.
Non, c'était pour montrer que c'est à partir des références qu'a utilisé Gareth Evans dans The Raid. Et il a utilisé Takeshi Miike ou Takeshi Kitano pour expliquer l'usage de l'humour noir dans les films. Il faut savoir que chez Kitano ou chez Miike, il y a une espèce d'humour pince sans rire, de côté un peu grotesque ou burlesque. Mm. Et notamment, par exemple, là, dans le coup de la batte dans The Raid 2, où la batte reste coincée dans le visage
du gars.
Il y a un côté un peu comme ça comique.
Ouais, carrément. Ouais.
Qui est comme ça un peu latent et ça crée. Tu sais pas trop quoi penser de ça quand tu le vois. Tu sais pas si tu dois rire. Tu sais pas si tu dois être choqué. Et c'est ça que j'adore. Et donc, il l'a repris donc, de chez Miike et chez Kitano.
Ah, d'ailleurs, un petit détail de The Raid. Enfin, ça spoil un tout petit peu, mais c'est peut-être. Et j'ai peut-être totalement halluciné, mais j'ai l'impression que les seules fois où Ico bute un adversaire, c'est en utilisant ses propres armes. C'est encore peut-être un ressort d'humour noir. T'arrives, tu utilises une arme létale contre lui, bah en fait il va te la retourner et tu vas en crever. Alors que les autres, bah en général ils leur pètent des articulations. Après de la rééducation et beaucoup de volonté, ils peuvent peut-être s'en sortir. Mais une fois que tu utilises une arme contre lui, bah t'es sûr de le payer de ta vie. Je sais pas si vous l'avez remarqué.
Ah, j'ai pas souvenir de ça. Non, je me rappelle plus, mais peut-être maintenant que tu m'en parles, ouais, il faudrait que je revoie.
Ouais, j'ai l'impression que t'as raison, Fabrice, ouais.
Ouais, moi aussi. Allez, deuxième extrait.
Freeze, this is the police. Drop your weapons and place your hands above your heads.
Un extrait de bande-annonce.
On Saturday, six members of the gang known as Street Thunder were ambushed by the police. On Sunday,
Cholo,
the warlords of Street Thunder swore a blood oath to avenge their dead. For the gang called Street Thunder, it is a day of
une vengeance. Référence à The Red.
It's war in the streets.
Jesus, come on. Come on, I'll give you my money. Just don't hurt me. Please. Please.
Un film de John Carpenter.
It's terror in the night. It's the most shattering assault on a police station in history. Assault on Precinct 13.
This is the siege.
It's a goddamn siege.
Ok, vous l'avez pas parce qu'il l'a dit.
Bah si, c'est Assaut.
Exactement, c'est Assaut. Ouais. Bravo mon champion.
Bien, ah. Bien.
Je savais pas si ça s'appelait Assaut sur le district 13. Non, je sais pas comment ils auraient pu traduire ça. Ok. Assaut.
En français, ouais. En français, c'est Assaut.
Ouais, c'est Assaut, c'est ça. Ok.
Exactement.
Et c'est une référence.
1-0.
Allez.
Je l'ai bloqué sur le gang des Street Thunder et j'étais en train de me demander, mais putain, c'est dans quoi, ça? Ouais. Bien joué.
Bon, là, la référence est évidente. C'est Carpenter, l'isolement. Et le fait que... Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est... je trouve que Gareth Evans a quelque chose de très proche avec John Carpenter. C'est cette manière de faire des films à moindre coût. The Raid en est la preuve, avec tous les moyens du bord. Il y a un mouvement de grue où quand la voiture des forces spéciales arrive devant l'immeuble, t'as une grue, et t'as comme ça un soubresaut. Et en vérité, c'est parce qu'ils ont détaché le mec qui était accroché à la grue quand ils l'ont descendu, pour ensuite suivre la section d'assaut rentrer dans l'immeuble. Mmh. Et donc, c'est toute cette chose-là, le fait que quand il passe, il y a un passage où il traverse le plancher, et donc il y avait quelqu'un qui balançait la caméra à quelqu'un qui était en bas pour recevoir la caméra au moment où les gens passaient.
Il y a aussi, moi ce que je trouve le plus impressionnant, c'est la scène dans The Red 2 où il est bloqué dans la voiture, et que l'un des caméramans est en fait son dos, c'est le siège passager, et du coup il est déguisé en siège passager. Je trouve ça incroyable. Bref, il y a des images sur YouTube du making of, c'est assez dingue.
Allez, troisième extrait, et normalement cet extrait là c'est de la rapidité.
Ok.
Dans ce gratte-ciel qui surplombe la ville,
d'ailleurs
12 terroristes ont déclaré la guerre.
Easy.
Bien.
Bon bah 2-0, hein, le problème c'est que tu pourras pas rattraper,
non,
mon bon Fabrice.
C'est foutu.
Bah, je mets quand même le dernier extrait.
Allez.
Arrêtez ! Une petite révision s'impose, les gars. J'espère que c'est acquis. Lors de cette leçon, je vous ai enseigné les 5 grandes techniques d'animaux.
Il est complètement dingue.
Le chat à 3 pattes.
Le rat à 4 yeux.
Nous allons les revoir. Le dragon voit le tigre. Le tigre recule. Le serpent porte sa langue.
C'est Karate Kid.
La panthère s'apprête à bondir.
Non.
La grue déploie ses ailes. Non, pas si vite.
Qu'est-ce que c'est que ça? Aucune force dans ce poignet. C'est comme ça que vous allez progresser. Corrigez-vous.
Oh, je crois. C'est Drunken Master avec Jackie Chan.
Ah,
il faut voir les films de Jackie Chan.
J'étais sûr que c'était un film de Jackie Chan, mais bon, j'en ai pas vu tant que ça, je t'avouerai.
Il était prêt. Je sais pas s'il existe encore sur Netflix, mais il était sur Netflix à une époque. Et,
d'accord.
C'est le film qui a fait de Jackie Chan une star. Mm-hmm. C'est tourné par Yen Wu-ping, qu'on retrouvera plus tard après dans les chorégraphies de The Matrix et,
d'accord.
Et de beaucoup de films aux États-Unis. Et ce film est juste... merveilleux, et merveilleux de drôlerie, d'absurde, et c'est génial. Allez, on va tout de suite passer donc à la suite. Donc, on va parler de VHS 2. Donc, c'est une série de courts-métrages sur l'horreur. Et donc, Gareth Evans a fait un court-métrage avec Timbo Tajonto, dont on va parler un peu plus tard. Et ça raconte l'histoire d'une équipe de documentaristes qui vont dans une secte pour filmer un reportage. Et au moment où ils y vont, la secte décide de passer à un suicide collectif. Et de ce suicide collectif, il va y avoir des éléments fantastiques qui vont se mêler au film, avec des zombies, le diable, enfin bref. Donc c'est une espèce de film foutraque. On a l'impression que c'est un film d'étudiant. C'est complètement... c'est une espèce d'horreur joyeuse, c'est-à-dire dans le sens où ça gicle partout, ouais, ça charcle, ça gicle, c'est... il y a quelque chose de très, j'allais dire, naïf, premier degré. Alors, c'est complètement anecdotique si vous voulez suivre la carrière de Gareth Evans. C'est anecdotique à un détail près, c'est que donc c'est le premier film Gareth Evans se frotte à l'horreur et il se frotte à l'horreur et il se sentait pas prêt à se frotter à l'horreur et donc il a demandé à son ami Timo Taranto de l'aider dans la réalisation de ce film et dans l'écriture de ce film parce que ça vient d'une idée de Timo Taranto au préalable. Et tous les deux avaient été invités à créer un court-métrage pour la série donc VHS. Et en fait, quand ils ont décidé de travailler tous les deux ensemble. Timo Taranto a décidé de travailler avec Gareth Evans parce que comme ça, comme il dit, il a pu apprendre toutes les astuces pour filmer parce qu'il sentait que il savait que Gareth Evans était plus doué dans ce domaine. Et Gareth Evans s'est appuyé sur Timo Taranto pour le côté horrifique, le côté comment on raconte et on fait un film d'horreur. Mmh. Et ça va l'aider évidemment pour Le Bon Apôtre qui est le prochain film dont on va parler. Je sais que Fabrice, tu l'as vu, VHS?
J'ai juste maté le segment Safe Haven de... voilà, c'est triché, mais je voulais voir ce qu'il était capable de faire justement en horreur au moment où The Apostle, Le Bon Apôtre, n'avait pas encore été annoncé. Et bon, j'ai pas trop aimé. Moi, de mon côté, j'ai pas trop aimé, même si encore on voit encore une fois la capacité à prendre des, on va dire, des vieux ressorts et de les réinventer rapidement. Donc, encore, tu l'as dit tout à l'heure, c'est anecdotique.
Bon. Ouais, c'est anecdotique. Mais ce qui est intéressant, c'est, voilà, c'est quand tu... dans la filmographie de Gareth Evans, c'est intéressant de voir comment il a commencé à se frotter à l'horreur. Parce que, donc, on va passer au Bon Apôtre. Mais je trouve que son passage du film d'action au film Attention est quand même une réussite.
Thomas, your sister. She's gone. These people, they're blasphemers. A cult, a disease. Bring her home.
Name? Thomas Richardson.
I dream of a world in which each waking day we rise equal.
This island,
it's our paradise.
We have an intruder on our land. We have to find him.
Your eyes. They've seen things. Who are you?
On ne saura pas qui c'est.
Pas tout de suite.
Et tu veux faire un petit résumé du Bon Apôtre, mon bon Thibaut?
Oui, bah comme vous venez de l'entendre, en fait, c'est l'histoire d'un personnage un peu obscur qui est censé avoir disparu et qui va aller chercher sa sœur, qui se trouve dans un culte qui a été créé dans les îles galloises. Alors c'est une île fictive, mais qui du coup nous rapproche un petit peu des origines de Gareth Evans. Et du coup, il va un petit peu enquêter sur ce culte et découvrir pas mal de petites choses. Il y a beaucoup de surprises, enfin il y a pas mal de surprises dans ce film, notamment par rapport à la promo et à ce qu'on pouvait attendre ou non notre ami Gareth Evans sur la question. Donc je vais pas en dire beaucoup plus, mais c'est une sorte d'enquête j'allais dire film d'aventure, mais c'est pas vraiment un film d'aventure, donc je vais arrêter là et dire que c'est plutôt un film d'horreur, mais où l'horreur arrive progressivement et sous des formes peut-être insoupçonnées, je dirais.
Ouais, c'est surtout un film d'angoisse. Pour le rapprocher à un jeu vidéo, tiens, c'est marrant, à chaque fois, il y a quand même une proximité entre Gareth Evans et le jeu vidéo. Je dirais qu'on est plus proche de l'ambiance Silent Hill que de Resident Evil.
Tout à fait, ouais.
On est vraiment dans une espèce de monstruosité larvée, d'un mystère comme ça qui entoure ce village. C'est assez prenant, même si je suis pas hyper fan de l'acteur principal et de son surjeu.
Dan Stevens. Yes. Est-ce que il faut qu'on donne notre avis sur le film?
Ouais, vas-y, balance.
C'est marrant, c'est un film que j'ai pas forcément très apprécié en regardant, parce que je le trouve assez étrange, en fait, dans sa construction, etc. Mais depuis ces derniers temps, j'ai gagné en tranquillité aussi par rapport à ma cinéphilie, et j'en ai un petit peu marre des films, on va dire, hyper standardisés, où toutes les scènes doivent servir à quelque chose, où il n'y a pas de scène d'ambiance, où il n'y a pas de développement de personnages qui ne servirait pas du tout l'intrigue. Gareth Evans fait encore ça, et notamment dans ce film. Et du coup, c'est vrai que pour l'instant, enfin sur le moment, ça m'avait pas beaucoup marqué, mais ça fait à peu près une semaine maintenant que je l'ai vu, et c'est vrai que j'y repense beaucoup parce qu'il y a certains concepts, certaines choses que j'ai beaucoup aimées. Visuellement, je trouve que le film est très beau, il est très angoissant par rapport à toute l'utilisation qu'il fait du côté insulaire en fait de la Grande-Bretagne en général, mais de cette île en particulier. Il y a plein mal de thèmes qui sont brassés, qui sont pas forcément hyper appuyés, mais je trouve que ça raconte beaucoup de choses sur l'utilisation de la religion, comment de bonnes idées peuvent être perverties, etc. Je pense qu'on peut vraiment en faire une lecture assez intéressante, même si ça se voit pas de premier abord. Puis il y avait là aussi la curiosité de voir quel genre d'horreur Evans allait faire, et aussi à quel point ça pouvait ou non être rapproché de ce qu'il avait déjà fait. Et c'est en partie là-dessus que se trouvent les surprises, donc je vais pas forcément rentrer dans le détail encore une fois, mais j'ai trouvé ça assez amusant de voir comment il a un petit peu raccroché ça au reste de sa filmo.
À toi, Fabrice.
Je l'ai pas encore terminé, parce que mes trajets en train ne sont pas assez longs. Et par contre, ce que j'ai adoré dedans, c'est l'utilisation de la symbolique religieuse. Quand t'es assez sensible à ce genre de questions, je pense que tu gagnes 2-3 points en angoisse et en fascination. Pour l'instant, je préfère encore dans son cinéma d'action, mais encore une fois, il maîtrise sa copie, et la symbolique est vraiment, vraiment cool. Et on sent que, c'est un Gallois, c'est chez lui, et il sait comment mettre en valeur le territoire.
Et puis il ramène cette espèce, comme tu dis, de symbolique. Alors on parlait de symbolique religieuse, mais ça me fait penser que dans The Raid, il y a aussi beaucoup de symbolique, et c'est un mec qui travaille beaucoup sur des espèces de plans qui a priori veulent pas dire grand chose ou n'apportent pas grand chose, mais qui fait au final participe beaucoup à l'ambiance. Et c'est vraiment un mec que j'aimerais bien voir, du coup, sur des genres hyper visuels, donc que sont l'horreur ou par la suite la science-fiction, etc. Et pas forcément que dans l'action, parce que je trouve qu'il y a aussi une forme de lenteur dans sa mise en scène, dans un côté positif, hein. Donc j'ai hâte de voir où tout ça va l'amener, parce que c'est vrai que sur le moment je me suis dit ah putain tiens intéressant, pourquoi pas, etc. Après moi je suis pas un fan d'horreur de toute manière, donc j'avais pas particulièrement d'attachement ou d'attente par rapport à ce qu'il allait faire ou non, mais c'est vrai que je l'ai trouvé assez inspiré dans ce qu'il faisait. Et je pense que pour les gens qui aiment un petit peu les ambiances, Lovecraftiennes, il y a quand même 2-3 trucs à grignoter. Donc, si ça vous titille ce genre de teaser, eh ben, je pense que le film mérite quand même un visionnage. Après, il est arrivé sur Netflix, comme beaucoup de projets que d'autres studios, d'autres producteurs n'osent plus mettre sur pied. Donc, c'est un peu en mode, vous le faites quand vous voulez, si vous avez envie de vous surprendre, pourquoi pas. Mais c'est là, ce serait dommage de pas en profiter, quoi.
Après, je trouve qu'on a parlé beaucoup de la critique de la religion, en tout cas du sectarisme dans la religion.
Ouais.
Mais je trouve qu'il y en a une autre qui est très intéressante, c'est du rapport de l'homme avec la nature, avec son espace.
Exactement.
Alors c'est au cœur de l'intrigue, et c'est au cœur de Révélation. Mais dans le rapport avec le milieu, je trouve ça hyper intéressant. Et c'est limite ce que je regrette un peu dans The Raid, c'est que dans Merento, on avait beaucoup, l'Indonésie était mise en valeur, tant et si bien que même dans l'intrigue, c'est-à-dire que le premier combat commençait à 30 ou 40 minutes, et j'étais, j'ai vu Merento, donc un rebours, c'est-à-dire que j'ai vu après avoir vu The Raid, et j'étais assez attiré par cette manière de filmer l'espace, de cette manière de nous montrer quelque chose, et de ne pas rentrer tout de suite dans l'action. Et je trouve que Apostle a ça de bien, c'est qu'il place son intrigue, il place ses événements, il tisse vraiment avec une certaine lenteur, mais une certaine... il appuie sur le côté angoissé. Je trouve que l'acteur principal, dans ses regards, qu'il fait beaucoup trop, il regarde toujours en l'air et tout ça, il a tendance à m'énerver, mais ça, je trouve que ça appuie quand même sur le côté étrange.
Ouais.
Du film.
Mais Dead Stevens, c'est un acteur assez fascinant parce que il jouait déjà un rôle très similaire dans Legion, la série. Et il a cette espèce de folie dans le regard, et je pense qu'il a pas besoin de beaucoup forcer, et c'est juste quelque chose dans lequel il devient très malsain très vite en fait. Et du coup, enfin moi je le trouve assez, je dirais pas réaliste parce que je sais pas à quoi ressemble la folie d'aussi près, mais c'est juste que je le trouve assez bon dans ce qu'il fait. Je trouve ça un petit peu dommage que ça soit un petit peu tout le temps sur les mêmes registres. Et là pour le coup, je pense vraiment qu'il a été typecasté pour ce rôle, parce que en fait je pense que si un rôle s'il avait eu un rôle un petit peu plus développé, ou si le personnage n'était pas aussi fou, ça aurait donné un tout autre film. Mais ça a créé, comme tu disais aussi tout à l'heure, tu parlais d'humour et d'humour noir, ou un humour un petit peu malgré soi dans quelque chose de très angoissant ou très viscéral. Je trouve qu'il y a un moment dans le film qui est génial, c'est quand il va un moment passer au-dessus d'une clôture de manière totalement impromptue, il commence à courir. Et en fait, je savais jamais trop si ce personnage était censé être héroïque, faire un peu pitié, être une sorte lui-même de monstre quoi. Et c'est ça que j'ai quand même bien aimé en fait dans le film, c'est que ça brouillait un peu les pistes et ça tentait de créer d'autres choses. Alors c'est vrai que de nos jours, quand on tente de créer d'autres choses, on dit forcément ah bah c'est nul, c'est pas aussi bien que ci et ça. Mais sur le moment, je sais pas, je me suis dit ouais, c'est le genre de perso que j'ai pas l'habitude de voir, c'est assez dur de rentrer dans le film parce que c'est un personnage assez globalement assez détestable aussi, enfin assez étrange en fait, t'as pas très envie de t'identifier à lui spontanément, mais je sais pas, il y avait un truc et j'ai trouvé ça, enfin plus j'y pense et plus j'ai trouvé le film curieux, et c'est un film que j'aimerais bien dont j'aimerais bien discuter je pense par la suite dans les mois à venir.
Et c'est quoi ta scène qui t'ont marqué?
Moi la scène qui m'a marqué c'est quand ils arrivent sur l'île en fait, et que on leur fait un petit peu passer des premiers tests, et on regarde un petit peu comment ils sont faits, et s'ils ont des maladies, je sais pas quoi, et ça m'a tout de suite mis dans une ambiance un peu et je sais pas, ça m'a collé un petit peu des petits frissons. Ça a l'air trop de rien comme ça, mais j'ai trouvé que c'était la nature galloise était hyper angoissante, la photo et tout, et il y avait vraiment quelque chose d'assez troublant en fait dans cette entrée où a priori bon c'est un culte mais ils ont l'air relativement sympa, et après ça part en couille, et il y a beaucoup de scènes qui ensuite partent en couille, et je pense révèlent pas mal de choses sur ce que pense Gareth Evans de la religion, de peut-être même du patriarcat par moment, ou ce genre de choses. Je voudrais pas aller trop loin dans l'analyse parce que le film vient plus ou moins de sortir, est sorti le 12 octobre sur Netflix, donc je pense qu'il y a encore des gens qui l'ont pas vu, mais il y a des scènes qui effectivement m'ont fait réfléchir alors qu'elles sont totalement dégueulasses quoi, vraiment dans un côté gorille, pas gorille l'animal, mais gorille l'adjectif en anglais, mais vraiment un peu crado, et j'étais là ah ouais, en même temps ça me révulse, mais ça me fait quand même me poser quelques questions, et du coup j'imagine qu'en cela le film est plutôt réussi quoi, à mon sens.
Alors moi la scène qui m'a marqué c'est la scène de trépanation.
Ouais, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse.
Mais elle est dans la bande-annonce, donc ouais, je révèle rien. Mais
non, effectivement.
Mais ouais, waouh. Surtout qu'elle fait suite à un autre événement qui là est pas dans la bande-annonce et qui est crucial.
Pour moi,
c'est le point de bascule c'est le point de bascule du film.
Ouais, que j'ai trouvé vraiment pas insoutenable, mais vraiment hardcore. Pour le coup, genre, tu te dis oh, en fait ça va, c'est de l'aura un peu gentille et tout, et d'un coup c'était cette aura un peu sociale en fait. Qui apparaît dans le film, et que sans trop en dire du coup je pense que c'est peut-être le bon adjectif, qui rattrape un petit peu l'horreur plus culte slash pseudo fantastique ou non, enfin qu'on a au début quoi. Donc c'est vrai que
ce qui est intéressant c'est que c'est quasiment une scène qui est assez peu visuelle, après il y a beaucoup de choses qui sont très visuelles, très
ouais.
Je trouve que mais cette scène là elle porte, il y a quelque chose dans dans cette horreur sociale, et c'est une scène, j'allais dire, d'une banalité.
Ouais, c'est ça, c'est exactement
c'est
ça.
C'est une scène banale, et alors que t'as été transporté dans des endroits assez gore, la référence à Silent Hill, franchement, vous la verrez peut-être, enfin, si vous voyez Silent Hill en ce côté un peu crasseux, organique des choses organiques de la, j'allais dire, de l'horreur. Là, on est assez proche de ça.
Ouais, complètement.
Mais cette scène-là, elle est complètement anodine.
Ouais.
Et elle est terrassante.
Ouais, complètement. Et il y a un sound design en plus qui accompagne tout ça. Enfin, sur ces deux scènes-là, qui est proprement, qui ajoute beaucoup au côté. Mais ouais, je sais que j'étais pas bien à ce moment-là. Donc, et c'est là où j'ai le plus réfléchi, notamment, effectivement.
Moi, la scène, c'est quasiment la même configuration que celle de Thibaut. C'est l'arrivée sur l'île et ce petit côté Lovecraftien, en fait. Tu sens que, encore une fois, la symbolique, la traversée d'une étendue d'eau dans la mythe symbolique et la descente aux enfers, c'est quelque chose d'important. Et en fait, cette arrivée sur l'île, tu sais que c'est foutu. En fait, c'est là que le trouillomètre se déclenche, mais il se déclenche sans que tu t'en rendes vraiment compte, sans qu'il, le réalisateur, Gareth, savait que ça allait avoir cet effet-là sur le corps humain. Mais en fait, ton trouillomètre se déclenche à quasiment zéro. Il est là. Tu sais que tu vas avoir peur juste par ces scènes de nature et par cette mise en situation.
Donc après avoir parlé du Bon Apôtre, on va parler d'un autre réalisateur indonésien qui met en valeur le cinéma. Ce qui est intéressant avec The Red, c'est que ça a créé un coup de projecteur sur un pays dont on connaissait assez peu la production cinématographique. C'est un peu comme Bong Joon-ho pour la Corée avec Memories of Murder, qui est un chef-d'œuvre d'ailleurs, il faut le voir. Et donc Timo Chajanto, dont on a déjà parlé parce qu'il était le co-réalisateur du segment de VHS 2. Donc on va parler de quelques-uns de ses films. Et donc je vais parler d'abord de Killers, qui a été pour moi la claque. Donc je connaissais The Red 2, tout ça. J'ai commencé à chercher et à trouver. Donc Timo Chajanto, je l'ai connu avec The Night Comes For Us. Et donc j'ai commencé à regarder sa filmographie, et notamment pour préparer ce podcast. Et The Killers, je l'ai pris en pleine tronche, ce film. C'est l'histoire d'un tueur en série au Japon qui filme donc ses actes et il met en scène les derniers instants de vie. C'est-à-dire qu'il filme vraiment le regard quand la vie s'échappe. Et il poste ses vidéos sur Internet. Et en Indonésie, il y a un journaliste qui a été déchu à cause du fait qu'il a enquêté sur un magnat qui a l'air plutôt véreux et plutôt mafieux, qui l'a empêché d'exercer son métier. Et il y a comme ça, il va se nouer une espèce de relation entre le meurtrier, le tueur en série, et le journaliste, parce que le journaliste a une espèce de fascination donc pour les actes, pour les vidéos qu'il voit, et il va finir par devenir lui-même tueur en série, mais il va agir pour faire justice. Et il va poster à son tour des vidéos de ses massacres, et il va y avoir une espèce de relation entre donc le tueur en série et son copycat en Indonésie, d'espèce de va-et-vient qui est à la fois fascinant, horrible. Et ce film m'a fait penser à donc au film coréen The Chaser de Na Hong-ji, ou le film du réalisateur de Hilang, le remake de Jinro qui s'appelle J'ai rencontré le diable. Qui joue vachement sur ce côté un peu malsain. Et j'ai été vraiment, je l'ai déjà dit au préalable et je le redis là, j'ai été fasciné par ce film. Je l'ai pris comme un coup de poing. C'était raide. L'acteur principal, donc du côté indonésien, on l'a vu dans The Red 2, c'est celui qui fait L'Homme de Main. C'est Oka Antara, peut-être. Et qui est comme ça un père de famille qui est largué socialement, c'est-à-dire qu'il était journaliste d'investigation, et tout d'un coup il se mue en tueur en série, entre tueur en série et justicier. Le tueur en série japonais lui demande s'il aime les actes qu'il fait, c'est-à-dire qu'il le pousse, il l'engraine à devenir un tueur en série. Et c'est dans cette relation entre l'un et l'autre, et comment lui qui est au Japon et l'autre qui est en Indonésie, les deux intrigues vont finir par se rencontrer, évidemment. Et comment elles se rencontrent, c'est génial. Donc, on est plus proche du thriller que du film d'action. Il y a beaucoup de scènes qui sont très, très visuelles. Et je pense que c'est la marque de fabrique de Timo Chajanto, parce que là où Gareth Evans expliquait que souvent, il évite de montrer le gore pour le gore. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme la batte dans la tête du gars, tu l'as vu, mais il va pas s'apesantir, quoi. Il va pas avoir de l'hémoglobine alors que Timo Chajanto, quand il donne un coup, c'est en règle générale, c'est raide, quoi. Et on parlera de cutter bientôt. Dans la joue.
Cutter dans la bouche.
Et donc voilà. Donc c'est vraiment un film à voir si vous voulez le voir. Moi, j'ai vraiment adoré ce film.
Tu le conseillerais à quelqu'un qui est un peu sensible comme moi sur l'hémoglobine et les trucs malsains?
Si t'es capable de voir The Night Come For Us, ouais.
Ouais, c'est pas le même contexte en fait. J'aime la joie de la bagarre, même quand ça part en couille. Tuer des gens pour le plaisir, c'est un autre délire.
Ouais, alors ouais, si t'es sensible à ça, je sais pas.
Ouais.
Itchy the Killer, du coup, Thibaut.
Ah bah, j'ai pas vu.
Ah, ok.
Ouais, on est vraiment dans un. Enfin, il y en a dans des mangas comme ça, des mangas un peu d'horreur où tu suis un psycho, un peu comme dans Seven ou des choses comme ça. Donc,
ouais, ouais. Ouais, bah Seven, ça va, tu vois.
Mais ouais, c'est dans ce genre-là, tu vois. Après, c'est très, 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 très visuel, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire que. C'est
tu veux dire très explicite, quoi.
Ah ouais.
Ouais, ok.
D'accord.
La première scène, enfin, tu sais, si au bout de 5 minutes, tu es capable de regarder les 5 premières minutes, tu sais que tu pourras aller jusqu'au bout.
Oh, bah très après, bien. C'est un bon test.
Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il va travailler les personnages. On n'est pas non plus dans une espèce de surenchère d'hémoglobine.
Mm-hmm.
Je trouve que les personnages sont très travaillés. Le tueur en série, on le suit vraiment. Il y a une forme de détresse. L'acteur est assez génial là-dedans. Il y a une forme de détresse. On suit sa folie. Et l'autre, on suit, et donc l'acteur indonésien, du côté indonésien, on suit son glissement. Comment, tout d'un coup, quel est le rapport à la morale, comment, jusqu'où il peut aller, et pourquoi il a été jusque-là aussi.
Mmh.
Donc, il y a toute une partie psychologique qui, je trouve, est assez intelligente. Et les rebondissements, alors peut-être que c'est moi, je suis totalement rentré dans le film, mais à chaque fois, j'ai été surpris. À chaque fois, je me disais, ah, il va y avoir un truc comme ça, et c'était l'inverse. Alors peut-être que quelqu'un avec une autre disposition intellectuelle les éventrait en 10 secondes, mais moi, jamais. À chaque fois, j'étais surpris.
Ok.
Donc ouais, non, je conseille vraiment ce film.
Intéressant.
Je conseillerais un peu moins Headshot.
Pareil.
Que j'ai pas vu, moi.
Ah, Headshot, c'est naze. C'est pas naze, mais c'est Timothée Chalamet que je pense qu'il essaie de prendre la place de Gareth Evans.
Il a vraiment fait des copier-coller de certains plans de The Raid dedans, ou certaines techniques. On parlait tout à l'heure de la caméra qui suit le passage par la fenêtre. Il y a le même plan dans Headshot. Que des trucs comme ça. Mais bon.
Ah ouais, chelou.
Donc c'est l'histoire d'un gars qui est amnésique, qui est retrouvé sur la plage, il est amnésique, et en fait, on se rend compte que c'est une espèce de tueur qui est élevé par un caïd qui élève les enfants pour en faire des tueurs. Et donc, il va retrouver comme ça. On est aussi dans ce rapport jeu vidéo, c'est-à-dire que chacun de ses frères et sœurs avec qui il a vécu, il va finir par les affronter. Et donc, on va retrouver beaucoup des acteurs. Donc, c'est l'acteur principal, c'est Iko Uwais.
Mm-hmm.
Et donc, on va retrouver Julie Estelle. On va retrouver le gars qui était avec la batte de baseball aussi dans The Raid 2, qui est d'ailleurs l'un des chorégraphes de ce film. Et le problème, c'est que le film est intéressant, mais il manque de tension. Tout m'ennuie. Et je trouve que dans ce genre de film, il y a toujours une limite où ça devient grotesque. Et je trouve que là, il en est arrivé là. C'est-à-dire que l'histoire, évidemment, c'est l'histoire d'une amnésie. Merci Jason Bourne. Enfin, bref, Jason Bourne, déjà, c'était cliché, quoi. Donc, voilà, on est dans le cliché. Les acteurs sont bons, les scènes sont sympathiques, mais tu retiens rien. Le début, ça se passe dans une prison où un gars s'échappe. Et la première fois où je l'ai vu, j'ai été complètement scotché parce que je trouve que la photo est super belle. Il y a une lumière jaune, il y a quelque chose de crasseux. Et la deuxième fois, je me suis dit, ouais, ben c'est too much, quoi.
Mmh.
Et je sais que le film, je l'ai vu en plusieurs fois, mais ça m'a un peu glissé dessus. Je trouvais que ce qui marchait dans The Raid et ce qui va marcher dans The Night Come For Us, là, ça marche pas.
Ok.
C'est un peu mou, c'est un peu. Ça reste sympathique, hein. C'est pas un film nul. Hein. On n'est pas dans Predator contre Alien ou. Ce que je veux dire, il y a quand même de la matière. C'est quand même. Les chorégraphies sont quand même belles. Effectivement, elles reprennent beaucoup trop, peut-être, ce qui se fait dans The Raid. Mais les acteurs restent. C'est quand même des acteurs de qualité, je trouve que. Et c'est ce que disait Gareth Evans. Il disait que beaucoup des acteurs qu'il a révélés, c'est quand même des acteurs qui ne jouaient pas auparavant. Mmh. Il a été content de pouvoir leur offrir la liberté, parce que ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils étaient comme ça des acteurs nés, mais qu'ils n'avaient jamais eu l'occasion de le prouver. Et voilà, tu retrouves, Iko Uwais est quand même un acteur génial, et d'autres acteurs qu'on a pu voir dans The Raid qui sont aussi géniaux. Mais voilà, c'est un film qui est moyen par rapport à toute la filmographie qu'on a vue aujourd'hui. Si VHS 2, c'est le film anecdotique, on peut s'en passer, tout le reste quand même, c'est vraiment quand même le haut du panier dans ce qui se fait de mieux, quoi. Et donc après, donc on va passer au dernier film qui lui est complètement à voir.
Tiga tahun gua jadi mesin pembunuh mereka. Enggak kehitung pembantaian yang udah gua lakuin. Kalau lo sudah dilantik menjadi seorang sukses, hukumnya mutlak. Jangan pernah mengampuni. Tapi di saat itulah gua melihat satu kehidupan kecil yang sudah di ujung tanduk. Mungkin aja gue bisa merubah taktis gue.
Gue gak ngira akan berakhir kayak gini tuh.
Apa yang gue lakuin sekarang?
Yang harusnya gue lakuin dari dulu.
Berani banget lo ngomong kayak gitu.
Mending lo siap-siap sekarang.
Voilà. Je me suis fait plaisir, j'ai mis un peu d'indonésien.
Voilà.
On parle de film indonésien, on n'entend pas d'indonésien, ça me semble bizarre.
Effectivement.
Et ce film est juste une claque. Qui veut le résumer ?
Ouais, je peux y aller.
Vas-y.
Ouais. Bah, comme dans Headshot, c'est un film qui commence, on va dire, sur une plage, avec un tueur, un mec sans scrupules, un dégueulasse, un gros salopard, qui vient de massacrer un village, mais qui est pris de remords pour je ne sais quelle raison et qui sauve une petite fille et du coup bah cet acte de charité va lui valoir d'être traqué par ses anciens associés, par ses anciens supérieurs, et on va se retrouver dans une trame assez classique où il va devoir tuer pas mal de mecs pour essayer de s'en sortir et essayer de s'échapper du pays avec la petite fille. Et bah, il va ouvrir la boîte de Pandore de la violence.
Tout voilà. À fait.
Alors effectivement, c'est une trame assez classique. Alors le cas de conscience, c'est quand même aussi un cas classique. Et je trouve que ce film est complètement viscéral et il est porté donc par Joe Taslim, qu'on a pu voir donc dans The Raid 1, qui lui, c'est pareil, c'est un acteur qui s'est découvert avec The Raid 1 et qu'on a vu après plus tard dans un épisode de Fast and Furious, je crois que c'est le 6.
Il me semble, ouais.
Ce type, il pue le charisme. Mais c'est dément. Et la folie aussi, hein. Il y a quelque chose de fou, notamment dans les...
Ouais, il y a quelque chose de malsain.
Dans les dernières scènes, et je trouve qu'il est capable, ouais, il a les expressions et tout, capable de passer comme ça d'une expression à une autre. Et ouais, c'est vraiment... c'est un coup de poing, ce film, de bout en bout. C'est... Il y a une tension. Là où c'était grotesque dans Headshot, je trouve que... Alors peut-être que c'est parce que c'est porté par Joe Taslim, mais je trouve que ça reste quand même sur le fil et pendant 2 heures, ouais, c'est un passage en apnée où tu prends les coups au même titre que les autres.
Le diable est dans les détails. C'est vraiment les petits points qui font passer du grotesque de Headshot à ce génie de réalisation. Enfin, le film est un peu bêta sur certains points, mais au niveau réel, c'est complètement dingue. Il a su, en fait, il sait exactement où appuyer pour qu'on ait mal en regardant quelques secondes de pellicule. C'est complètement irréel parfois de se dire que bah qu'il a trouvé des subterfuges de FX où on a même l'impression, enfin tu pourras me confirmer parce que tu as dû plus te renseigner que moi, que les effets spéciaux ou le maquillage. Enfin, ces techniques de maquillage pour simuler les blessures sont plus, enfin, j'ai trouvé plus justement viscérales que dans d'autres productions. On sent la blessure, on sent les contusions. C'est beaucoup de lacération. Les couteaux ne sont pas nets. Ils sont, c'est vraiment ça. La chair n'est pas coupée, elle est déchirée, elle est déchiquetée. C'est ça.
Mais c'est parce qu'il les montre. Ouais. Contrairement, je trouve, à Gareth Evans, lui, il s'attarde quand il y a un cutter qui traverse la joue.
Mm-hmm.
C'est dégueulasse à souhait et il s'attarde sur le fait qu'il retire la lame de sa joue.
Mm-hmm.
Et il y a... Ouais, c'est gore. Elle est une scène préférée. Allez, tiens, mon petit Thibaut.
Moi, c'est l'énorme catfight de la fin entre Julie Estelle et les deux assassines qui sont ensemble. J'ai bien aimé la bagarre entre ces trois-là. Déjà parce que je trouvais que le personnage de Julie Estelle était assez intéressant juste visuellement, en fait. J'ai pas trop compris comment il est introduit, etc. Il y a beaucoup de mystères qui entourent ce film, qui d'ailleurs a un peu une espèce de, du côté des trucs un peu négatifs, essaie de faire croire à certaines surprises, mais tu sais jamais vraiment si c'est le, enfin, s'il y a vraiment quelque chose derrière ou pas. Alors après, on en saura peut-être plus par la suite, mais j'ai trouvé que son perso était tout de suite hyper énigmatique et j'avais envie d'en savoir plus parce que bah déjà on l'avait repéré dans The Raid 2 et j'adore son style avec l'espèce de, enfin tu vois, le un bras qui est nu et l'autre couvert ouais. De noir. Elle est hyper dynamique dans ses combats face à ces deux assassins là aussi, et je trouve que c'est juste les meilleures chorégraphies, parmi les plus dégueulasses aussi, parce qu'il y a vraiment là pour le coup il y a de la bonne Sharpie qui gicle dans tous les sens. J'ai vraiment bien aimé cette scène là. Le film en lui-même, après, je l'ai trouvé hyper kiffant et visuel dans sa façon de effectivement mettre en scène les combats et d'utiliser notamment toute cette toute cette panoplie d'armes blanches. Et là où je disais que c'était plus fun que dans The Raid, c'est que quelque part ça caractérise tout de suite les persos, tu vois quel avantage ça leur donne, etc. Et j'ai beaucoup aimé regarder le film, même si pour le coup je le trouve bien moins profond ou un peu plus je trouve qu'il y a moins de sens en fait dans ce film là et je trouve qu'on est plus dans un bon délire de blood, enfin tu vois, un joyeux délire à base de sang et de tripes, et mais qui est plutôt bien foutu dans son genre, parce que je trouve que les chorégraphies sont plus originales que dans Headshot, d'après ce que vous avez dit, même si moi j'ai pas vu le film, et qu'il y a vraiment des séquences qui sont complètement dingo. Du coup je donne plusieurs scènes préférées, mais il y a aussi celle de l'espèce de fourgon de prisonnier avec la grenade, que je trouve tout simplement jouissif, quoi. Genre vraiment, je m'y attendais pas, et quand c'est arrivé, j'étais là, what the fuck. Et qui m'a beaucoup rappelé quelque part aussi la scène de la voiture de The Raid 2, mais dans un autre niveau, et je trouve qu'ils ont bien fait leur taf sur ce film, et que il y a beaucoup d'iconisations qui fonctionnent. Alors pas forcément toutes, mais on a parlé du perso de Julie Estelle, mais moi aussi j'ai bien aimé Bobby, le perso de Zach Lee, qui est beaucoup trop héroïque dans ce film. Et c'était un bon délire, voilà.
Et c'est vrai que je trouve que tous les personnages sont très vite caractérisés. Les gentils sont tout de suite attachants, mais chaque personnage, même les antagonistes, c'est-à-dire que les deux filles sont hyper bien caractérisées. C'est-à-dire que tu sais qui est qui, tu t'attaches ou non à certains d'entre eux, mais tu es tout de suite capable de les caractériser à la fois dans ce qu'ils sont en tant qu'acteurs, mais aussi dans leur manière de se battre. Et c'est vrai que Bobby, donc celui qui a une jambe en moins, lui c'est une bête, quoi. Je balbutie là, mais il est fascinant, tu vois. Il y a des scènes, je l'ai revu hier soir, et quand je cherchais donc ma scène préférée, je me disais, ah mais cette scène j'adore la scène de la boucherie par exemple.
Ouais, la scène, il y a beaucoup de scènes qui sont hyper ludiques et que tu peux pas t'empêcher de kiffer. Et c'est vrai qu'au début, par contre, c'est un peu surprenant parce que tu te dis, mais, genre, what? Enfin, tu vois, l'intrigue, elle démarre en 30 secondes. C'est quand même un gros clicheton, le coup du mec qui a tué toute sa vie et puis d'un coup, il décide d'arrêter, tu sais pas trop pourquoi. Et c'est que des méga stéréotypes, mais je sais pas, plus t'avances et plus tu t'accroches à ces personnages-là et à leur complète comment on appelle ça, alors leur envie de sang et de vengeance, et ouais, tu t'accroches à eux, quoi.
Ouais, alors après il y a quand même une scène, parce que là on dit que toutes les scènes sont bien, mais moi il y a une scène que j'ai moins aimée. C'est la scène du combat quand ils sont dans la salle de billard. Je trouve qu'elle est mal chorégraphié ou mal filmé, dans le sens où
il arrive avec la voiture là.
Ouais.
Ouais, ok. Bah qui déjà rappelle celle de The Raid 2 en plus. Et ouais, c'est vrai, elle est assez bizarre. Je l'ai bien aimé, mais soudainement il y avait moins de travail quelque part. Il y a moins de photos, c'était moins léché, j'ai trouvé.
Et surtout que tu commences sur une image assez originale, c'est-à-dire que t'as la caméra juste derrière la tête, un peu comme dans un TPS. Donc ça dure pas très longtemps, mais le problème c'est que t'as une masse et tu vois les gars qui attendent leur tour pour combattre. Donc t'as que des 1 contre 1, alors que tout laisse supposer, et d'ailleurs parce que donc ce combat-là va se faire en même temps que celui de Julie Estelle, et celui de Julie Estelle est carrément génial, et après on va revenir sur le combat donc de Joe Taslim, sur cette scène, où là ça devient un combat de masse. Mais toute cette première partie est très très molle et c'est le seul micro détail parce que de toute façon t'as pris claque sur claque et t'es en apnée depuis le début.
C'est
mais
clair.
Je trouve que cette scène est un peu molle parce que ouais ils sont là, ils attendent leur tour pour prendre et puis en plus vu qu'il appuie sur les côtés gore quand il massacre un des gars avec des boules de billard dans un sachet, c'est marquant visuellement. Mais le problème c'est que dans la dynamique du combat, ça devient mou.
Mmh. Ah, vous parliez des ressemblances entre The Raid 2, enfin la scène de la voiture de The Raid 2 et celle de la salle de billard. Pour moi, c'est là que la différence entre Gareth Evans et Timo se fait vraiment. Gareth, c'est une sorte de technicien parfait. Il a cet amour du penchak et des confrontations qui lui permet, et aussi une technicité qui lui permet de tout filmer et d'avoir une mise en scène où tu t'y crois vraiment, où il y a la suspension d'incrédulité et autres. Thibaut, il est plus sur du visuel. Il ne brillera jamais autant que dans des scènes, on va dire, un peu plus confinées avec quelques personnes et où il pourra montrer, enfin, déployer toute sa panoplie gore. Alors que là, c'était vraiment un combat qui était censé être assez esthétique, un combat de masse où le héros allait déployer sa panoplie de mouvements. Mais ça, il ne sait pas trop faire. Et justement, Headshot, il essaie de le faire durant tout le film et ça ne fonctionne pas parce que c'est pas ce qu'il sait faire. Lui, c'est percuté par des images fortes. C'est pas émerveillé par des chorégraphies léchées. Donc c'est pour ça que ça fonctionne moins bien et c'est pour ça que en parallèle, le combat de Julie Estelle plus confiné, plus et beaucoup plus maîtrisé. Enfin, ça c'est mon avis. Et du coup, c'est le combat de Julie Estelle et c'est Julie Estelle mon personnage préféré du film. Voilà.
Je comprends.
Plus donc Timo Chajanto, comme on l'a dit, prévoit donc une trilogie et le deuxième film, si le succès vient pour The Night Comes For Us. Et je pense que, en tout cas, il y a eu un certain buzz, notamment ce qu'il a fait le tour des festivals avant d'arriver sur Netflix. Donc, devrait tourner autour donc de Julie Estelle, qui se fait nommer The Operator.
Yes.
Et le troisième film devrait être sur... ça devrait s'appeler Les Huit Lotus. Et Les Huit Lotus, c'est déjà les deux filles qui étaient deux des Lotus.
Oui.
Et donc, ça devrait être comme ça, sur cette sororité peut-être de combattantes, ce qui pourrait être assez génial.
Ok, ouais, effectivement. Je n'avais pas suivi cette info, mais c'est intéressant.
Il en a beaucoup dévoilé sur Twitter. Et il est d'ailleurs hyper actif sur le réseau. Je conseille à toute personne l'utilisant de le suivre. Parce qu'il répond avec beaucoup d'humour aux trolls, aux haters qui ont bâché son film. Mais derrière, il dévoile également ses plans. Il est hyper généreux dans ce qu'il balance. Et ouais, c'est une personne à suivre sur Twitter.
Ok.
Alors, question un peu qui fâche, est-ce que The Night Comes For Us, c'est le prochain The Raid, vu qu'on sait qu'il n'y aura pas de The Raid 3?
Déjà, moi, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de The Raid 3, même si je peux comprendre pourquoi Gareth Evans ne voudrait pas forcément le faire, parce que je trouve que la fin laissait présager qu'il y avait encore des choses à faire. Après, est-ce que ça sera The Raid 3? En attendant, moi, ça m'a permis de survivre un petit peu. Et je me dis, ce que j'aimerais bien, c'est éventuellement peut-être qu'ils retravaillent ensemble parce qu'ils ont tous les deux des qualités et des skills qui sont un petit peu différents. Donc, ça serait rigolo peut-être de les voir concevoir un projet, quel qu'il soit, en guise de The Raid 3, quoi. Mais je pense.
Je crois que, si mes souvenirs sont bons, hein, Gareth Evans est producteur de The Night Comes For Us.
Ouais, je crois. Mais quelque chose de plus. J'avais quelque chose en tête de plus impliqué que juste ton nom pour dire que, tu vois. Mais pourquoi pas. Mais après, je pense pas qu'on pourrait appeler ça le Raid, The Raid 3.
Ouais. Non, le truc qui m'a vraiment fait chier sur l'annulation de The Raid 3, c'est qu'il avait déjà commencé à le pitcher en disant qu'il commençait à 2 heures avant la fin de The Raid 2. Donc, je commençais à faire tous mes plans. J'étais comme un ouf parce que jusqu'à présent, pour moi, il n'y a pas mieux que The Raid dans la représentation de la violence dans l'affrontement. Et même si j'ai beaucoup aimé The Night Comes For Us, c'est pas, c'est, c'est, C'est pas la même limonade. Et se dire que c'est peut-être vers ça qu'on nous... Enfin, c'est peut-être les seules représentations du Pajak ou de la violence physique indonésienne qu'on aura. Parce que Gareth Evans, là, il a l'air d'être sorti totalement du combat. D'après ses dernières interviews, j'ai l'impression qu'il a dit qu'il en avait fini avec les films de bagarre parce qu'il avait fait le tour de la question et que maintenant, bah, il allait filer des coups de main aux autres et faire des films plus scénarisés. Donc, ça me fait mal de me dire qu'il nous a fait tutoyer les sommets et qu'il s'est barré. Il nous a donné le goût à quelque chose d'unique et il s'est dit, bon, bah, vous en avez eu assez, je m'en vais. Donc, ça fait un peu mal. J'ai des trémolos dans la voix.
Je le perçois pas comme ça, mais on en reparlera peut-être après par rapport à.
Ouais, je pense qu'on peut y aller, hein, parce que.
Ouais.
C'était la prochaine question. C'était qu'attendre de la suite de Gareth Evans et.
On sait que c'est un projet c'est un mec qui a eu 1 milliard de projets pendant qu'il a travaillé entre les deux The Raid et pendant The Raid 2. Je crois que le truc qui m'excitait le plus, c'est que pendant un temps, il bossait sur un film de braquage avec Universal. Il en était en fan de braquage, de films de braquage. J'aurais vraiment beaucoup aimé voir ça. Parce que c'est aussi un cinéma qui a besoin d'un certain tempo et d'une action vraiment ciselée, etc. Donc j'aurais vraiment beaucoup aimé voir ce que ça donne. C'est peut-être toujours dans les cartons pour lui. Il a été approché par Warner pour faire Deathstroke, même si j'y crois plus du tout et j'ai jamais cru en fait techniquement. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait le voir arriver. Et je ne serais pas le capitaine de l'Outrider si je ne disais pas qu'un Star Wars par Gareth Evans, ça m'intéresserait beaucoup. Ou même ne serait-ce qu'un petit épisode ça et là en mode bagarre pour dire que, parce que on dit qu'il en a fini avec la bagarre, en tout cas il le dit, mais il y a quand même 2-3 passages dans Apostle qui rappelle que c'est toujours là et qui veut quand même faire plaisir. Il fait croquer quand même 2-3 moments en disant t'inquiète, j'ai pas oublié d'où je viens. Donc j'ai pas forcément envie qu'il décline, tu vois, son style d'action sur plein de trucs. Je trouve que son style va de toute façon au-delà de la simple mise en scène de l'action, parce qu'il a vraiment, je parlais d'une certaine lenteur tout à l'heure et toute la densité qu'il peut donner autour de plans très contemplatifs et tout ça. J'aimerais bien voir arriver un mec comme ça qui a digéré pas mal du cinéma asiatique, mais qui a quand même des contacts avec Hollywood, les franchises et d'autres trucs, sur des projets un petit peu bandants, quoi. Après, ces derniers temps, c'est typiquement un mec qui aurait pu se faire matrixer en 30 secondes par Hollywood en acceptant tous les deals possibles et imaginables, et il l'a pas fait. Donc je pense que ce qu'on attend de la suite de sa carrière, c'est qu'il fasse des projets un peu uniques, quitte à ce que ça soit pas toujours hyper incroyable, comme par exemple Apostle. C'est pas, enfin, pour moi c'est pas un bon film, quoi. J'en garde pas un souvenir ému, mais j'ai quand même beaucoup apprécié le voir et voir ce qu'il pouvait faire sur ce genre là donc s'il continue de se diversifier, je serais pas étonné qu'il devienne quelqu'un d'assez grand et au-delà du cinéma d'action, en tout cas.
Ah, moi je détesterais le voir dans un film hollywoodien, quoi. De toute façon, sachant que
ça dépend à quel degré on lui donne du pouvoir, quoi.
Mais dans un film Netflix, enfin dans une production Netflix, je dis oui. Dans une licence genre DC ou Marvel, j'ai pas envie de ça. Je trouve que il a tellement de cinéma que c'est comme Alfonso Cuarón, c'est-à-dire que ces gars ont tellement de cinéma que quand ils font Jurassic World,
Ah, mais Alfonso Cuarón, il nous a donné le meilleur Harry Potter quand même.
Ah.
Ouais, c'est vrai, mais
tu parles vrai, frère.
Mais d'un autre côté, c'est moins hollywoodien que britannique. Même si la machine derrière est hollywoodienne, peut-être qu'il avait plus de marge de manœuvre derrière que ce que l'on peut entendre sur ce qui se passe chez la Warner ou chez Disney. Comment les réalisateurs se font bouffer, et d'une certaine manière, comment le marché aussi du cinéma n'est plus prêt à voir certains films et certains réalisateurs sur grand écran, alors que je pense que ce cinéma-là est présent et a voix à apparaître et à rester et à perdurer sur des réseaux comme Netflix. Ah ouais. Quand tu sais que First Man a bidé alors que c'est un film génial, quand tu sais que à l'inverse, Venom a surcartonné, tu te demandes pourquoi.
Mais quelle indignité.
Quelle indignité.
Donc c'est aussi un rapport, j'allais dire, du public avec ce qu'il veut voir au cinéma, et je pense que peut-être que c'est pas c'est pas son credo. Et moi, j'aimerais le voir toujours dans des productions, j'allais dire, indonésiennes, parce que je trouve que c'est intéressant aussi de donner à voir et de donner au public, j'allais dire occidental, des films qui viennent d'ailleurs, mmh. et de propulser des acteurs qui viennent d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, Iko Uwais, il est demandé partout. Alors, j'ai failli oublier la fameuse question. Et qu'est-ce qu'il a été foutu dans Star Wars ?
C'est la directrice de casting de J.J. Abrams qui les avait repérés. Et Abrams avait vu The Raid et avait adoré. Et ils sont tous les deux dit, ce serait quand même stylé de les avoir pour faire un petit truc dans Star Wars. Le Kanji Club, je trouve que dans le nouveau canon Star Wars, ils ont une histoire assez géniale puisque c'est en gros une mafia qui a pris le contrôle de la mafia Star Warsienne après la chute des Huts et de l'Empire. Donc en gros après la mort de Jabba et la chute de l'Empire. Donc je trouve qu'ils ont une backstory complètement ouf, des designs absolument géniaux. Je trouve qu'ils sont assez incroyables. Mais les mecs se sont fait bouffer par des putains de raftards en CGI dégueulasses. Et c'est des boules parce que je me souviens que quelques jours avant la sortie de The Force Awakens, l'encyclopédie avait leaké avec leur look et j'étais là, oh putain, ça va être hyper badass.
Moi, je m'attends à de la grosse bagarre.
Ouais, ouais, ils vont avoir une micro scène, mais ça va être délire. Et après, je reste toujours plus ou moins persuadé qu'ils avaient recruté pas mal d'acteurs qui étaient issus de background type arts martiaux, notamment aussi Jessica Henwick qu'on a vu dans Iron Fist qui joue Colleen et qui joue une pilote dans The Force Awakens. Et en fait, c'était si je me souviens bien, ma théorie de l'époque, c'était qu'ils avaient recruté exactement le même nombre qu'il y avait de Knights of Ren. Et je me demandais si l'idée c'était pas de leur donner un rôle à visage découvert dans The Force Awakens pour un jour les faire revenir sous le masque des reines pour avoir de la baston Star Warsienne un peu nouvelle génération. Donc c'est peut-être quelque chose que Abrams avait en tête mais qui a pas été depuis repris par Rian Johnson. C'est toujours une théorie à laquelle je m'accroche parce qu'avec le retour d'Abrams sur Star Wars 9, on se dit que ça pourrait être encore le cas. Mais en tout cas, je pense que au pire des cas, il faudrait quand même un petit comics ou une petite série ou les faire revenir dans The Mandalorian je trouve qu'ils ont un look absolument dingo, c'est que ce serait assez marrant d'en faire une force avec sur laquelle compter dans une série à base de bagarres et de chasseurs de primes.
Mais c'est quand même des acteurs qui ont été sous-employés, en tout cas pour Star Wars, ils auraient pu tellement...
C'est pour ça que je crois vraiment à cette théorie du double... des doubles rôles, parce que je comprends pas, en fait. Enfin, après, c'est vrai que forcément, on te dit, mec, je suis désolé, on vous a kiffé dans Star Wars, on veut vous rendre un petit hommage, vous venez, vous jouez ça. Je pense que les mecs, ils disent, ok, nickel, tu vois, pas de problème. Mais c'est vrai que, tu vois, je me dis, c'est quand même de la gadgeterie de luxe que d'aller chercher tous les acteurs de The Raid pour les mettre 30 secondes dans un film, quoi. Donc il y a ce projet là auquel je crois toujours un petit peu, puis il y a un truc dont on n'a pas parlé, mais aussi l'idée du remake américain de The Raid qui a permis de financer The Raid 2 aussi.
Ouais.
Donc et qui serait toujours en développement par Joe Carnahan qui essaie de faire en plus autre chose. Il a fait une longue interview sur Collider, je crois que c'était l'année dernière, où il expliquait ce qu'il avait en tête, le contexte était différent et tout, et franchement c'était prometteur s'il le faisait vraiment tel qu'il voulait le faire, parce que je trouvais ça assez respectueux et tout. Mais je pense que ça finira dans un carton et puis ça sera rouvert un jour en mode total cash grab. Mais je sais pas, c'est aussi un truc que j'aimerais peut-être voir. Parce que de toute façon, The Raid, je trouve que c'est totalement visionnable pour un public occidental. On ne va pas se leurrer, mais peut-être que ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas.
Ils vont peut-être tenter ça quand John Wick aura terminé toutes ses itérations, comics et autres.
Peut-être, ouais.
Donc, on va conclure. Donc, je vous remercie tous les deux de m'avoir accompagné.
Yes.
C'était super. Cool.
Merci à toi pour l'invite.
Avec plaisir.
Thibaut, quelle est l'actualité dans l'Outrider ?
On a récemment enregistré une conversation qui aurait dû être plus longue, qui aurait dû être différente, qui aurait dû mieux se passer parce que organisation de l'appareil Comic-Con. Ah ouais, je balance, là, je suis comme ça. Je balance les coups tel un martial artiste. Mais avec Charles Soule, qui est un des scénaristes les plus prolifiques du côté des comics Star Wars nouvelle génération. Je pense que l'interview est pas mal, même s'il est plus courte que prévu. Il est très sympathique. Il nous a fait une intro en français. Donc, allez checker ça. On a toujours un truc sur Halloween et la peur dans Star Wars qu'on avait fait du coup fin octobre, et puis là bientôt on va enregistrer un nouvel épisode news parce que il y a quelques trucs qui ont été annoncés quand même. Et qu'est-ce que je voulais dire, et puis oui bien sûr on préparera un petit quelque chose pour Noël. Voilà,
il était excellent l'épisode de Charles Soule.
Ah merci David, ça me fait plaisir que tu me le dises.
Fabrice, t'as une petite actualité? Non.
Non, je suis un homme de l'ombre, donc pas d'actualité.
Ok, l'homme de l'ombre. Je vous remercie de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, si vous aimez Actionneur, à en parler autour de vous, à mettre des étoiles et des commentaires sur iTunes. Nous vous retrouvons très vite pour un numéro consacré à je ne sais pas quoi encore, mais normalement il devrait être un peu spécial parce que c'est les fêtes, tout ça, mais on en reparle bientôt. Donc on se dit à très bientôt. Allez, à plus.
À plus les amis, et bonne bagarre.